Geneviève Gagnon et France D'Amour.
Prendre le micro. Petit détail. Bonsoir tout le monde, ça va bien? On est content que vous soyez là. Vraiment, merci d'être là. Vous êtes au podcast Les Sacoches à poudre, mais évidemment, on prend pas de poudre. On va vous le dire tout de suite, là, soyez pas déçus. On est très content d'être là ce soir. Jen, ça va bien, toi?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien, merci.
On est toujours content d'être ici, puis merci d'être là. By the way, puis on a beaucoup de views.
On a
sur
des views.
Les plateformes de podcast, ça marche, ça va bien. On est un bébé podcast. Excusez, hein, vous savez que je repousse le moment de monter sur ce banc. Si vous vous souvenez avec les autres podcasts,
m'en
pour moi, c'est
number.
L'aventure d'une vie.
Hein? Je vais me préparer un petit number pour le moment que tu montes ben, sur ta chaise.
Ben, il faudrait que tu parles pendant qu'ils ne perdent pas attention à moi.
OK, oui. Ben, écoute, premièrement, pour vous donner des... Bon. Bravo, Jeannette, ça réussit.
Qu'est-ce que tu disais?
Je disais, ben, je voulais vous donner des nouvelles. Mon 15e album est sur le point d'être terminé. On fait le lancement. Tiens, je vous invite le 7 mai au ministère. Le ministère, c'est sur Saint-Laurent, coin Mont-Royal. On fait un lancement avec plein un tapis rouge. Ça va être un beau lancement. Oui, ça va être un bel événement.
Tu fais un méga lancement avec les médias puis tout.
Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis je me suis dit, 15e album, 15 albums. Ça a quand même fait
Ben, 15 albums, come on, 15! Albums! T'es hot!
Mais non, mais c'est parce que c'est rendu une dépense frivole. C'est parce qu'on en vend plus tant, tellement les gens écoutent la musique sur les plateformes aujourd'hui. Fait que c'est comme, c'est une carte d'affaires, mais qui t'a coûté 50 000 piastres.
Je pensais pas que ça te fait pas peur, toi, les critiques sont pas trop sévères ou on a de la misère avec les critiques.
Ça, c'est la dernière affaire que. Non, vraiment.
C'est pas ça qui est.
Non. Moi, j'ai été drillée avec ma mère. Ma mère...
Oh, mais qu'on dit donc, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère?
Oh, ma mère... Ma mère a pas de filtre.
Elle a plus de filtre.
Ma mère, elle me dit des choses. Ah. Ben là, cette semaine, elle m'a dit, « En tout cas, tu gagneras pas à La Voix cette année, certain. Tu sais, elle aurait pu me dire quelque chose comme, « On vote pour toi, pour on espère, ce sera pas facile, la compétition. » Non, c'est comme, « Tu gagneras pas, c'est sûr, avec elle. » C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est comme, ma mère, c'est ça. T'sais.
C'est tellement drôle.
Faudrait que tu sois plus féminine. Elle m'a dit ça l'autre fois. Faudrait que tu sois plus féminine. J'étais comme, comment ça, être plus féminine?
Mandy, c'est quoi ça veut dire?
Ben non, mais attends, elle m'a dit, garde ta sœur, elle se fait pas les ongles, pédicure. Puis moi, je joue de la guitare, tu sais. Fait que j'ai dit, écoute, je peux pas me faire faire les ongles, je serais pas bonne à la guitare, tu sais. Puis là, tu pourrais mettre tes talons aiguilles. J'ai dit, ben maman, je joue de la guitare, ça serait dangereux, je pourrais me planter, tu sais. Fait que tu pourrais mettre un beau décolleté. Hey, tu me vois-tu avec un beau gros décolleté, la guitare? Le monde devrait juste passer à la carte.
In the crackers!
In the crackers.
On a un méchant bon podcast. Mais avant de commencer, tu sais qu'on a, on veut remercier les gens qui sont autour de nous pour le podcast. C'est important, on n'en parle pas assez, mais les gens en arrière scène qui font en sorte que le son sort bien, que l'image sort bien, que toutes les plateformes de podcast, ça soit bien. Alors, on remercie Maxime Duclos, qui est notre photographe officiel du podcast, et derrière Balado Québec, qui s'arrange pour que notre balado soit en ligne. Et ici, j'ai Mario Morneau et Nathan Rémillard qui sont production Métaphore.
C'est eux. Météore.
J'ai dit ça que j'ai dit. Ça, c'est pas pour deux toilettes, là. Mais avec les caméras, ils travaillent fort. Les gars, c'est eux autres qui mettent en ligne. Donc, merci beaucoup à vous. Un bon main d'applaudissement. Merci à Steven et la taverne, le propriétaire de la taverne ici, qui aime beaucoup être là ce soir dans sa petite niche, qui nous reçoit dans son
bien
studio.
Bien assis, ta petite chaise en métal.
Tu bouges plus de là.
T'as voulu chipper sa chaise, ben tiens-toi.
Ah, voilà.
C'était vraiment une bonne blague que je faisais à Phil. J'ai mis la chaise la moins confortable ici parce que je pensais qu'il serait là, puis c'est moi toi. Qui
brise. Ah, voilà. Et on a un commanditaire qui commandite Coteau-Saint-Paul. C'est un vignoble et cidrerie Coteau-Saint-Paul à Saint-Paul-d'Abbotsford. Est-ce que vous connaissez? Premièrement, c'est une famille, la famille Pomerleau, qui ont eu ça en 2015, mais la terre est cultivée depuis 1999 pour le vin, les vignes, etc. Ils sont écœurants. Moi, je suis allée souvent là, parce que j'adore cette famille-là, j'adore les encourager. Puis, on a décidé d'encourager notre podcast avec du vin que je vous présente. C'est parce que souvent, le vin québécois, où on n'est pas porté, ils ont mauvaise presse des fois, mais de moins en moins. Hein, on en boit de plus en plus, mais ça prend. Eux, ils ont du vin extraordinaire. Ce soir, d'ailleurs, j'aimerais ça avoir un petit verre de vin, s'il vous plaît, maître. Mais je vais prendre un petit verre de vin. Ce soir, il commandite notre podcast et on le remercie.
Merci beaucoup.
Si ça vous tente d'aller les voir sur place à Saint-Paul-d'Abbotsford, c'est le temps des cabanes à sucre, puis vous promenez, là, arrêtez le voir et dites le mot « sacoche ». Si vous voulez acheter quelque chose, puis vous allez avoir un petit cadeau, un petit rabais, vous allez avoir de quoi si vous dites le mot « sacoche ». C'est sûr qu'ils vont leur avoir l'air bizarre s'il ne l'a pas dit à son staff. Mais, tu sais, qu'il se cache en arrière de la caisse et il fait « Hey, 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 hey! » Ça gauche!
Ça gauche! C'était pas quoi? Hey, ça fait
un vin orange? OK, c'est un vin gris. On dirait qu'il est orange. Ah, c'est l'éclairage, le maudit éclairage. Merci, Annick.
Ah, il faut que j'enlève.
C'est oui, c'est lettre.
Tu veux jamais...
Alors...
C'était pas Tipol de la sacoche. Je peux-tu la mettre sur votre table? Hey, merci.
C'est un vin écœurant. Ça, c'est un vin festif et pour l'apéro. Il y en a ici ce soir. Si vous voulez en commander, commandez-en. On a fait maintenant, il nous fournit en vin à la taverne. Ben, vous payez, là, mais je veux dire, c'est le vin que vous pouvez goûter. Donc, on remercie Vignoble et Ciderie Coteau-Saint-Paul. Merci beaucoup de nous commanditer. Et allez les voir. Ils sont à l'SAQ. Ils sont dans des petites épiceries fines aux fermes Guyon. Incroyable. Cette famille-là est incroyable. Je les adore et voilà. On les remercie.
C'était quoi, dont l'anecdote de Tipol, le gérant de Rogue Voisine, qui avait la sacoche? C'était quoi cette anecdote-là? Hein? Vous rappelez-vous de ça, la sacoche? C'était quoi?
La sacoche de c'est quoi son nom, Paulo Vincent?
Paulo Vincent. Paulo Vincent, c'était le gérant de Rogue Voisine. Ah oui, dans sa coche, je pense que c'était de l'argent.
Je pense que notre invité, peut nous aider dans nos anecdotes. Sûrement. On l'invite-tu? On est-tu prêt?
C'est un artiste extraordinaire, OK? J'ai fait quelques spectacles, mais j'ai eu l'honneur de chanter avec lui. C'est une des plus belles voix au Québec. C'est un chanteur lyrique, c'est un chanteur de pop. C'est un génie. J'ai fait le tricheur avec, il sait toutes les réponses. Il est maintenant directeur général des conservatoires de musique au Québec. C'est pas employé, là. Ça, c'est directeur général. Rien de moins que, je veux dire, il est capable de tout faire. Alors, applaudissez chaleureusement l'extraordinaire Marc Hervieux!
Comme je t'ai montré.
Oui. Salut tout le monde. L'anecdote que j'aurais voulu compter plus que Hawaii dans sa coche.
Mais tu t'en rappelles-tu de cette affaire-là?
Oui, il disait ça. Hawaii dans sa coche.
Ah, c'est ça, c'était l'argent.
Oui, c'était l'argent.
Okay.
Mais moi, surtout, c'est que j'ai chanté, effectivement, j'ai eu le plaisir, l'honneur, le privilège de chanter souvent avec toi. Pas assez souvent. Mais surtout, d'aller manger avec toi avant les shows. Et je n'ai jamais croisé encore à ce jour quelqu'un qui mange autant que toi. Puis comme ça, là, Et comme et ça, c'est... là. Ouais, non, je t'ai détesté pour ça, là. Je t'ai haï au bout.
Ah non, je sais, ça fait partie de mon charme.
Je regarde le morceau de tarte, puis je prends trois livres. Toi, tu prends la tarte.
Moi, en fait, quand je regarde des tartes, je prends trois caries. Moi, j'ai des caries en regardant les enfants, mais c'est vrai que c'est mon charme. On m'appelle le grand sagmère.
Merci.
Je me rappelle une fois, j'avais daté un gars, puis c'était un photographe, puis lui, il datait tout le temps des mannequins, tu comprends, des filles très, très, bon, des mannequins, c'est ça, puis, tu sais, les filles, ils prennent, tu sais, un petit bout de salade, oh, je suis rempli, fait que moi, j'arrive, je mange avec lui au restaurant, je finis mon assiette, tu finis pas ton assiette,
non,
chaud, finis ça, la grue, comprends-tu? Hey, il était excité,
oh, ouais, ah ouais, ah ouais.
Hey, ça l'a allumé, comprends-tu?
Il voulait. Merci beaucoup, Marc, d'être là.
C'est un plaisir d'être là.
Est-ce que tu as des souvenirs avec moi?
Oui, j'ai un souvenir très, très avec toi.
Un instant.
Ah, t'as une photo?
Ah, voilà.
Non, un autre.
C'est quoi,
ça, ouais. Ça, c'est moi puis toi quand on sort de la voiture.
C'était c'était pas court toutoune ou quelque chose
comme
ça.
Oui, oui.
Puis on avait couru 5 kilomètres.
Oui, et l'autre. On était arrivé, je m'attendais pas à autant de monde, on n'est pas capable d'avancer en auto.
On courait 5 km, mais vous voyez de où on sort, là, c'est ça. Rien ne sert de courir, il faut partir.
Voilà, non, mais on est arrivé en auto, on a donné rendez-vous pour faire un court auto, mais j'ai dit que Marc-Hervieux était là et on ne s'attendait pas à autant de personnes dans le stationnement, on n'était pas capable de sortir de la voiture, donc on parlait les fenêtres, les portes ouvertes.
C'était le fun.
Et je mets l'autre après.
Ah, fais-moi un shot de solo mio.
Che bella cosa, una giornata, il sole, sole, sole.
Sole, ça, c'est voilà. Oh, c'est
on
ça.
On avait eu du fun, on avait vraiment eu du fun.
Moi, là.
Le 5 km, là, je m'en suis remis la semaine passée. Ouais, là, ça a été long à me remettre.
Mais on avait un tournage.
Oui.
Si tu te souviens, on allait. J'allais te chercher dans une maison qui n'était pas la tienne. Tu sortais de la maison.
Oui, oui, tout à fait.
T'embarquais dans l'auto. Puis là, on parlait, on était filmés. Puis là, on parlait.
Oui.
Et tu m'avais fait tellement rire, là, parce que là, il fallait toujours recommencer. Il y avait quelqu'un caché en arrière avec sa caméra dans le fond de l'auto. Puis tu m'avais dit que tu arrivais de Disney avec tes enfants.
Ça se peut,
Puis que tu avais fait comme, je sais pas combien, millions de pas.
Ah oui, aïe, écoute, t'en fais.
Puis j'avais dit que j'étais pour appeler à D, puis en tout cas, on avait ri. Puis à un moment donné, il faisait couper, il fallait qu'il recommence, il ressort de la maison, il embarque dans l'auto.
J'ai obligé de redire les mêmes niaiseries.
Et là, il sort, ça sent le Gémeaux! Hey, je l'ai ri pendant 4 ans et demi. Ça sent le Gémeaux. Fait que c'est là que j'ai vu que t'étais. Puis tu m'avais fait rire toute la journée.
On avait eu du fun, m'en souviens.
Et
m'en
que t'es drôle. Bien.
À part le 5 km, ça, c'était plus tough. Là.
Sur le bord du canal.
Je me suis rendu compte que c'était long, 5 km.
Je sais pas si c'est légendaire, mais c'est rare les musiciens qui sont des athlètes. Le sport puis la musique, on dirait.
Marche pas.
Il y en a, mais moi, je me dis, un musicien qui est athlète, c'est louche.
C'est louche. Ouais, c'est ça.
En tout cas, Marc, tu nous as dit quelque chose avant de faire le podcast qui m'a vraiment étonnée. C'est que maintenant, tu es directeur général
des neuf conservatoires de musique et d'art dramatique.
Et c'est ça. Ouais. Ça, je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est que ces conservatoires-là au Québec, c'est une loi.
Ouais, c'est une loi.
C'est-à-dire que le gouvernement, nous devons avoir, voyons, tu me l'as enlevé. On doit avoir des conservatoires au Québec. Puis ça, c'est bon parce que ça fait que le potentiel de musiciens, le calibre est fort. Est-ce qu'on est compétitif avec le monde?
Incroyablement. Parce que c'est une école, c'est ça. Ça a été fondé en 1942. Mais la première école est arrivée en 1943 à Montréal, le premier conservatoire. Puis c'est une loi. Donc, c'est une obligation d'avoir une école pour former des interprètes, soit en musique ou soit des acteurs, des actrices, parce que je fais les deux, les conservatoires de musique et d'art dramatique. Et puis, si on regarde la liste, là, la liste est interminable de gens qui sont sortis des conservatoires. Présentement, évidemment, le plus grand chef d'orchestre Maître au monde, Yannick Nézet-Séguin, a étudié au conservatoire. En fait, on était on était ensemble au conservatoire. On était dans les mêmes années, donc début des années 90, fin 80. La liste est vraiment interminable. Puis les acteurs, c'est pareil. Tu sais, la liste est vraiment très, très longue. Robert Lepage, et puis on peut en nommer plein. Fait que ça fait que ce qui est spécial surtout, puis ça, je te l'ai pas dit tantôt, c'est que le modèle de conservatoire qu'on a, c'est basé sur le Conservatoire national supérieur de Paris. Donc, c'est vraiment le même genre d'éducation musicale. Et on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ce modèle-là. OK? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Là, quand je vais, moi, à chaque année au Congrès mondial international des conservatoires et des écoles de musique, c'est toujours en Europe. Là, au mois de novembre passé, c'était à Salzbourg, en Autriche. Puis tu arrives, puis tu fais juste dire que c'est le conservatoire du Québec. Puis tu donnes des noms. Là, Yannick Nézet-Séguin, puis Marie-Nicole Lemieux, puis Bruce Liu, des gens du milieu classique qui sont extrêmement connus. Robert Lepage en théâtre. Je vais te dire, là, tu as l'attention instantanée du monde. Fait que ça, c'est une fierté que des fois, on ne sait pas ou qu'on oublie. Ici, au Québec, on est juste une petite gang, là.
Mais, oui, à Timothée Chalamet, pas au courant, là.
Oui, Timothée Chalamet, il n'a pas eu le mémo pour ça. Mais à l'international, on est incroyable. On est vraiment très, très cotés. Ouais.
Wow! Et est-ce qu'il y a... Tu sais, là, dans le fond, toi, tu es un artiste. Là, tu es directeur général, tu as une position de gestionnaire, mais dans le fond, tu es un chanteur, tu es un artiste, tu es un musicien. Est-ce que ça... De voir ces talents-là, ça te donne-tu le goût de retourner ses planches?
Ben, moi, j'ai pas arrêté, en fait, parce que quand... Moi, là, j'ai pas postulé pour cette job-là. C'est eux autres qui sont venus me chercher. Puis je pensais que je me faisais jouer un tour. Je pensais que c'était le retour de caméra, de
surprise, cachée. Surprise, là.
J'étais sûr que c'était le retour de surprise, surprise, OK? Parce que cette journée-là, c'est une journée flyée, là, au printemps 2022. Oui, c'est ça, 22. Le matin, je me fais offrir de remplacer un morning man très connu dans une radio très connue. Puis là, je suis comme, voyons donc, j'en reviens pas. Et là, je pense à ça toute la journée. Le soir, j'animais une soirée, une levée de fonds à Montréal, au Ritz. Puis là, quand je descends de scène, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, Monsieur Hervieux, je suis mandaté par le gouvernement pour vous parler. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct?
D'accord!
Et textuellement, elle me dit, le gouvernement voudrait que vous preniez la direction générale des conservatoires de musique et d'art dramatique.
T'as même pas d'entrevue à faire, là!
Non! Là, elle me dit ça de même. Et là, je suis sûr que je me fais jouer un tour. Fait que je check, tu sais, je sais comment ça marche, là, la TV. Fait que je check alentour les miroirs, je check toutes les places où je sais qu'il pourrait y avoir une caméra. Puis là, dans ma tête, je me dis, je vais la challenger tout de suite. Je vais lui dire, écoute, j'ai pas le temps de te parler de ça ce soir, mais appelle-moi mercredi, puis on va en jaser. Fait que je me dis, si il y a des caméras quelque part, elle va insister pour me parler.
Les caméras, t'es dans ton auto.
Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a dit, OK, on se parle mercredi. Tabarouette, ouais, c'était comme...
Ça aurait été écœurant, tu disais, hey, va chier!
C'est ça, tu sais. Mais fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Le mercredi, j'ai jasé, en fait, avec elle puis avec le conseil d'administration du conservatoire. Puis après comme 10-15 minutes de jasette, j'ai dit, coudonc, moi, je suis en train de passer une entrevue sans m'en rendre compte. T'sais, il me posait des questions sur ce que je pense du conservatoire avant, aujourd'hui, puis où je le vois plus tard. Puis je répondais à ces questions-là, mais... Maintenant, j'ai bien compris que je passais une entrevue. Puis là, avant la fin de cette rencontre-là, c'est là qu'ils m'ont dit, on veut vraiment que vous preniez la place. Et ça m'a pris des mois pour prendre ma décision.
Ah, carrément?
Puis, carrément, parce que là, on était en mars ou avril, début avril. Puis genre fin mai, ils m'ont dit, écoute, faut vraiment que tu nous donnes ta décision parce que le dernier conseil des ministres pour approuver
ta candidature,
c'est le 1er juin. Fait que...
Qu'est-ce qui te faisait hésiter?
C'est une petite grosse job.
Petite
responsabilité.
C'est vraiment une grosse job. Tu sais, c'est, je suis pas la mascotte, je suis pas le porte-parole. Là, je suis le gestionnaire, le PDG. Au Québec, en culture, il y a 12 sociétés d'État. Puis moi, donc, je gère une des sociétés d'État. Fait que j'ai 400 employés, puis j'ai 1000 élèves à travers 7 villes au Québec. Fait qu'à tous les jours, je travaille, tu sais, là, une vraie job, là, du matin au soir, puis c'est des heures interminables parce qu'on a des présentations d'élèves un peu partout. Puis après ça, ben je m'en vais faire mes shows à moi, parce que ça, j'ai insisté là-dessus, parce que dans le contrat, quand ils m'ont envoyé le contrat, ça disait, la première phrase, « à l'emploi à temps plein et exclusif pour le gouvernement ». Puis là, moi, j'ai dit « ça marchera pas ». Parce que j'aurais dit, écoutez, il faut que le directeur du conservatoire, si vous décidez d'aller chercher un artiste, là, ben il faut qu'il soit les
sur
deux
le
pieds dans le terrain, puis qu'il voit comment ça marche, puis qu'il voit comment ça évolue, puis ça change, puis tout ça. Fait que finalement, bon, après des discussions, ils ont accepté, tant mieux. Puis là, ben c'est sûr que là, je commençais à plus pouvoir dire non, là. Mais ce qui a fait la grosse différence, c'est le jour où...
C'est la sacoche!
Non, parce que Morning Man dans une station connue,
ça
compte pas l'argent, t'apaises. Hein?
Oh!
Non, mais c'est vrai que c'est très, très, très payant.
C'est vrai.
Fait que là, ça se comparait pas pantoute, même si c'est très bien payé. Mais... Fait que là, ben tout ça pour dire que je me suis dit, qu'est-ce que ça va me donner de faire ça? Puis quand j'ai réalisé que je pense que j'étais rendu à pouvoir... être un passeur.
Ah oui.
Tu sais, là, une responsabilité de dire, ben la jeunesse, là, il faut l'aider. Moi, j'ai été aidé, j'ai été chanceux. Fait que c'est à mon tour. Tu sais, c'est à mon tour de faire ça. Puis depuis ce temps-là, ça fait quatre ans, le 1er juin, de la jeunesse exceptionnelle, là, je la côtoie à tous les jours. Parce que pour arriver à jouer du violon, du piano, à être un acteur, à chanter, à tout ça, comme eux autres le font, là, il n'y a pas de secret, là. C'est pas parce que t'as eu une petite potion magique quand t'es né, là.
T'as
juste dans ta tête assez de folie pour te dire « je vais tout mettre mes énergies là-dedans ». Mais il faut que tu le fasses pour y arriver.
Parce que c'est faut que tu sois, pour gagner ta vie dans la musique classique, faut que tu sois tellement bon.
Mm-hmm.
Tellement bon. Puis pour atteindre ces niveaux-là, ça demande...
Atteindre un niveau d'excellence, c'est une affaire, puis c'est vraiment, vraiment... Tu sais, là, c'est des exigences comme ça.
Ouais.
Mais pire que ça, c'est d'y rester.
C'est ça.
C'est comme les athlètes, là. Le gars, il court le 100 mètres en moins de 10 secondes. S'il arrête de s'entraîner, là, ce sera pas bien long. 3-4 courses plus tard, il va remonter en haut de 10 secondes.
C'est la même
affaire.
Je me rappelle d'avoir vu, à tout le monde en parle, comment il s'appelle. Moi, j'ai les noms. J'ai un trou.
Guillaume Lepage.
Pianiste.
Alain Lefebvre qui disait, il demandait combien de temps qu'il pratiquait par jour son piano. Puis il disait, moi, je suis pas bien bon, on pratique juste 8 heures par jour. Là. C'est 7 jours par semaine. C'est quand même 8 heures par jour. Là. T'es pas payé là, pour faire ça. Là. C'est juste pour garder le niveau. Ou Alain Caron à la basse de jazz. Là. C'est ça. C'est faut que tu pratiques des heures et des heures et des heures.
La dextérité. Faut que tu gardes la dextérité sans arrêt.
C'est ça. C'est les Olympiques.
Est-ce que ça s'apprend ou faut que tu aies un don avant de le polir? Est-ce que tu nais... comme, mettons, moi, je ne sais pas chanter, là, pour vrai. Là. Moi, je vois là, il se passe, quelque chose.
Je vais te dire, regarde, moi, je pense que...
C'est pas si drôle.
Moi, je pense que tu devrais oublier ça. C'est pas ça que je voulais dire. Excuse-moi, ça...
T'as un bon instinct.
Moi, je suis là, je ris la conne.
Non, mais écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai qu'on peut avoir eu un petit cadeau de la vie et avoir plus de facilité. Mais tu peux pas juste compter là-dessus. Si tu comptes juste là-dessus, ça ne marchera pas. D'ailleurs, un jour, la fille d'un couple d'amis me dit ça. Tu sais, elle me dit, on est à la maison chez nous, et puis dans un party, puis elle me dit, peut-être 17 ans. Puis elle me dit qu'elle veut être chanteuse. Elle aimerait ça que je l'écoute. Fait que je l'écoute, il l'allait. Là, je me dis, mais comment je fais pour lui dire ça se passera peut-être pas, tu sais? Puis là, je me dis, j'ai pas à y dire ça, tu sais. Je vais lui dire, écoute, il va falloir travailler fort. Mais tout le monde travaille fort pour y arriver, puis tout ça. En tout cas, peu importe.
Tu t'en es bien.
Des années plus tard, là, elle a fait le cégep, elle a fait le bac.
Elle voulait.
Elle a fait la maîtrise, puis elle est sortie. Elle n'est pas passée par le conservatoire, elle est passée par une université, elle. Puis elle est sortie de là, puis quand j'ai fait juste en 2020, là, pendant juste avant la pandémie, moi, je jouais au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde, je jouais dans l'Opéra Néligan,
oui.
Mais je gérais pas mal la production, bien, je l'ai engagée.
Ah!
Parce que. Elle chante en Simon.
Bon, elle voulait.
Fait que, tu sais, tout est possible.
Ça se peut.
Tout est possible. Puis elle, c'est un bel exemple de si tu travailles, là,
ben
ça
oui.
va marcher.
Ben oui.
Si tu penses que ça tombe du ciel, ça marchera.
Ben bien. En fait, il faut que tu aimes tellement ça pour mettre les heures.
Oui, exact.
C'est, tu sais, quand on entend quelqu'un, ben, je pense à Mario Pelcha, justement, qui, à un moment donné, il y avait une chanteuse, justement, La Voix, la semaine passée, puis il écoutait la chanteuse, puis il disait ce que j'entends, là, c'est quelqu'un qui aime vraiment ça chanter. Parce qu'elle a mis les heures.
Ouais.
C'est un métier cruel pour ouais. ça. Moi, pendant une semaine, si je fais pas mes gammes sur ma guitare, là, le show, c'est sec. Ça coule pas. Ça va pas de soi.
C'est sec et ça coule pas.
Je suis ménopausée de la main.
Clic.
Oui.
Et pourtant, ça fait quoi? Au moins une dizaine d'années que tu joues de la guitare?
Moi, je pensais que ça fait 10 ans que t'es sec. Mais ça, c'est ça.
Aussi.
Non, mais moi, oui. Non, non.
Mais, t'étais comment jeune?
Ah!
Ah!
Hey, moi, j'étais... j'étais un accident, vraiment, là. Tu sais, là, quand ma mère apprend qu'elle est enceinte, elle dit à mon frère et mes deux sœurs qu'ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur, puis elle pleure, puis c'est pas des larmes de bonheur.
C'est vraiment comme...
Comment on va faire pour nourrir une bouche supplémentaire? Puis ils savaient même pas à quel genre de bouche il y aura à faire.
Oui, parce que tu viens d'Hochelaga, puis dans ce temps-là, c'était pas riche.
Puis moi, mon père travaillait à l'usine de sucre, comme vous pouvez voir. Et puis, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de métier. Quand moi, je suis arrivé, ma mère a dû aller travailler. Fait que moi, dès la maternelle, première année, j'avais ma petite clé dans le cou. Dans ce temps-là, on venait dîner à la maison.
Mm-hmm.
On faisait des patates frites, puis un sandwich, là, moi, en première année, tu sais. Aujourd'hui, on appellera DPJ, là, je veux dire. mais j'étais très hyperactif. Fait que moi, je faisais tout ce qui me passait par la tête, mais hyperactif, assez positif. Tu sais, je faisais tout ce qui me passait par la tête. Mes parents, ils me disaient tout le temps, tu peux pas faire, tu sais, je voulais aller au scout. On peut faire ça, Marco, parce que on n'a pas d'argent. Ben moi, je m'arrangeais pour aller livrer des commandes chez Steinberg, puis je me ramassais de l'argent, puis j'allais m'inscrire au scout. Tu sais, je faisais tout ce que je voulais.
Ça sera pas long. Steinberg, c'est une épicerie.
Ouais. Quand j'étais petit, c'était Steinberg.
L'ancêtre de IGA.
Oui, exact. Fait que c'est ça. J'étais très, très hyperactif. Très, très, très hyperactif.
T'étais-tu un ado tannant? Tu faisais-tu... Moi, c'est parce que je t'imagine sérieux. Mais pas sérieux plate, là, sérieux drôle, mais pas jamais en dehors de la traque.
Non. J'ai pas été beaucoup en dehors de la traque parce que rapidement, c'était la musique et le théâtre qui m'intéressait.
C'est ça.
Mais moi, j'ai été chanceux de rencontrer le bon monde. En troisième année, croyez-le ou non, en troisième année, j'écrivais des pièces de théâtre, des petites pièces de théâtre. Puis, je répétais ça dans la cour d'un de mes amis d'enfance, Yves Lavigne, qui était le seul haïtien de Hochelaga Maisonneuve.
Il
s'appelait Yves Lavigne. Il avait été adopté par des gens de Hochelaga Maisonneuve. Puis,
okay.
Dans ce temps-là, là, c'était comme une attraction quasiment. Puis en plus, il était grand, il était beau, il dansait comme un dieu, tu sais. Et moi, c'était mon ami. On a été dans toutes les mêmes classes, toute la primaire. On répétait dans sa cour. Puis moi, je jouais le personnage de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle restait chez nous. Fait que j'écrivais. Moi, je jouais ma mère Hervieux, là, Rosa. C'était le personnage de mes pièces de théâtre. Mais l'affaire, c'est que j'allais voir, imaginez, troisième année, je descendais, j'allais voir la directrice, toc, 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 la directrice de l'école, je disais, écoutez, j'ai une nouvelle pièce de théâtre décrite, il faudrait qu'on regarde le calendrier pour savoir quand est-ce que l'école va descendre dans le gymnase pour venir voir ça.
Ben, troisième année!
Elle faisait, cette directrice-là, Mme Lapointe, à qui je dois, tu sais... Elle a cru en moi, tout ça. Hey, au secondaire, j'animais les galas, puis ah ouais, donc, puis je faisais plein d'affaires. J'avais dit, on faisait des cours, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de ça, les cours d'initiation Oui, c'est ça.
À quoi?
Oh, FBS. On faisait métal en feuille, électricité puis menuiserie. Puis dans ce temps-là, là, c'est terrible parce que nous autres, on faisait ça, les gars, puis les filles faisaient couture,
oui.
Dactylo.
Économie familiale.
Économie familiale. Hein, on se rappelle de ça. Mais moi, j'avais dit au prof, hey, c'est vraiment plat de faire un petit pop crayon puis une tablette, là,
ben ouais.
C'est vraiment poche. Mais vu que quand on fait les galas, on a toujours des problèmes, on n'a pas de spot, on n'a pas d'équipement. Si on les fabriquait dans le cours, les
mais
équipements...
On va gosser un micro.
Non, mais... fait qu'on on a commencé à gosser des spots.
Ben voyons.
OK, des fresnels, puis là, avec tout en métal. Puis le prof d'électricité a aidé pour qu'on installe tout le truc. Sauf que ça, rendu le 22 juin, là, c'était vraiment pas fini, là. Ben, deux des trois profs, là, sont restés à l'école avec nous autres, là, jusque genre 10-12 juillet, pour qu'on finisse le projet, puis qu'à l'automne, on puisse s'en servir. Fait que ça, quand tu rencontres ça dans ta vie, là, puis que t'as une passion, là, hey, sky is the limit.
C'est fou comment le monde, c'est important. Hein? Ben, ceux qui te croisent dans ta vie, juste des petits coups de main de même.
Disons, c'est des petits culs de Schlager-Maisonneuve. Moi, quand je disais à l'orienteur, je veux être un chanteur d'opéra puis je veux chanter sur toutes les
grandes scènes. Toi, tu savais ça jeune.
Ouais.
Ouais. Mais moi, c'est ça qui...
4, là, wow. Tu dis ça, là.
C'est ça qui m'impressionne, c'est que tout le monde est dans la pop, tout le monde est dans le courant. Toi, t'as gardé ta ligne de chanteur lyrique, puis tu vois, t'es devenu
pourquoi
tellement...
Pourquoi tu veux être chanteur d'opéra quand t'es jeune?
Ben, moi,
qu'est-ce
ce qui m'impressionnait...
que tu ta référence?
Ben, mais moi, ma référence, c'était ce qui passait à la TV.
Il n'y en avait pas gros,
c'était
là.
C'était Yolande Guérard, c'était Paul Berval, c'était
mais Paul Berval José faisait
Totaro.
De l'opéra?
Mais Paul Berval faisait de l'opérette.
Ah, ouais?
Quand il allait dans les talk shows, il chantait toujours un petit quelque chose, tu sais. Puis moi, ça m'impressionnait comme petit cul. Puis j'écoutais ça, j'écoutais C'était le bon temps à TVA. Puis c'était les vieilles chansons. Puis ma grand-mère, elle restait chez nous puis elle chantait tout le temps. Fait que moi, toutes ces chansons-là, je les connaissais parce que c'était ma grand-mère qui les fredonnait. Fait que quand elle est partie de chez nous, elle vivait avec nous autres. Quand elle est partie de chez nous, elle s'est en allée dans un foyer pour personnes âgées, mais surtout aveugles. Elle avait perdu la vue. Moi, il m'amenait, ben, parce que mon père, là, on en discutait même pas, là. Le mercredi soir puis le dimanche après-midi, tu allais voir ta grand-mère. Peu importe ce que tu faisais, c'était aller voir ta grand-mère. Mais moi, j'aimais ça parce que il y avait une madame qui s'installait au piano, au salon central, puis moi, il me mettait à côté, puis je chantais parce que les vieilles chansons que la madame faisait, je les connaissais, ma grand-mère les chantait.
Ah.
Fait que, tu sais, c'est tout, c'est comme un enchaînement. De...
Oh,
mais
ouais.
En secondaire 4, là, comme tantôt, je disais, là, quand l'orienteur me dit là qu'est-ce que vous voulez faire parce qu'il faut que tu choisisses ton cégep puis tout ça, j'ai dit ça là, je vais être un chanteur d'opéra. Hey,
ben
je fais rire de moi
c'est
là
sûr.
Complètement là puis je dis là clairement, je veux chanter sur les plus grandes scènes du monde entier. Écoute, je me fais dire hey comme retombe les deux pieds à terre là, tu sais. Mais tu sais quand un jour t'as les deux pieds
c'est
sur la scène de la Scala de Milan ou de le Kirov Opéra à Saint-Pétersbourg en Russie ou n'importe où à travers le monde là, où j'ai chanté.
Est-ce
là.
Qu'on n'a pas n'importe qui ici ce soir? Est-ce que vous vous rendez compte?
Non, mais...
Est-ce que vous vous rendez compte? Sérieux? C'est capotant.
Je peux te dire que j'y ai pensé à cet orienteur-là des fois quand je l'avais vu.
Moi, ma grand-mère, elle me chantait la petite grenouille. C'est sûr que j'avais pas d'espoir, là.
C'est sûr que, ouais. Non, mais tu vois,
regarde. Le curé du village, s'en va. Le curé du village, c'est sûr qu'on chantait.
Mais y a-tu d'autres jobs? Parce que je trouve que c'est des anecdotes intéressantes parce qu'on a des anecdotes de chanter dans des bars puis tout ça, mais toi, des anecdotes de chanteurs d'opéra, justement, au Metz ou des affaires de même, c'est quoi les anecdotes de chanteurs d'opéra?
De bar, là, moi, là, ma meilleure, là, c'est... C'est au début de ma carrière. Là, je t'ai engagé pour faire la musique pendant une dégustation vin fromage. Mettons que moi, je chante ici, là, puis les gens qui prennent ça, là, vous êtes comme l'autre bord de la rue, là. C'est tellement loin. Mais moi, je suis seul de mon bord ici. Puis je chante avec mes deux guitaristes, des amis. Puis là, il y a un gars qui s'avance, il s'en vient complètement en avant, comme vous, là. Puis là, moi, je suis vraiment, vraiment en face de lui. Puis là, il me regarde, tu sais, tout le temps même. Puis là, j'ai dit, c'est un peu gênant, là, tu sais. J'ai dit quelque chose entre les dents. Tu sais, puis là, qu'à un moment donné, après une toune, je le regarde, je le salue. Puis il me dit, hey, tu chantes, là. Tu chantes tellement bien, tu chantes comme une cassette.
Tu chantes comme une cassette.
Tu chantes comme une cassette.
championnat.
Oh, j'ai jamais entendu ça.
Une bitraque, une quatre traques.
Hey, ça, mais ça oh, wow. a trahi mon âge, mais. Mais à l'opéra, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un immense paquebot. Ça tourne pas Saint-Dicenne. Dans le sens que, il y a un orchestre dans la fosse d'orchestre, sont majoritairement 60-70 musiciens. Sur scène, il y a les solistes, une douzaine de solistes. Il y a les choristes d'habitude. 50-60 choristes, t'as les figurants, t'as les danseurs, t'as plein, fait que ça fait comme 250 personnes d'impliquées. Puis il y a un chef d'orchestre en avant qui fait la circulation puis qui tient tout ça. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ça continue.
Ouais, ça c'est arrête ça,
jamais, 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 jamais.
Oh, mais si j'ai pas moins soliste qui se pète un ongle, qui se pète un doigt, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ben, le premier violon, c'est le deuxième?
Dans les orchestres, quand, mettons, le premier violon, c'est celui qui est donc le plus proche du chef en avant. Lui, il n'a pas juste la fonction d'être assis là, c'est aussi le concertmaster. Ça veut dire que c'est celui qui avec le mouvement de son corps puis tout ça, donne aussi des indications à l'orchestre. Le chef d'orchestre en avant, lui, il bat la mesure avec sa main droite. Il donne des indications avec sa main gauche. OK? Donc, il va toi, tu sais c'est quoi? En quatre, donc, il va lever le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais là, ça peut être en 2-2, ça peut être en 3-4, ça peut être en 6-8, ben oui. Ça peut être en 9-12. Ben oui. Ça peut être... Fait que donc, mais lui, il tient ça serré, là, OK? Mais...
On va jusqu'à 6, des fois.
Ah, ben oui, certain. Faut savoir compter.
Faut savoir compter.
Mais tout ça pour dire que lui, là, il a vraiment une fonction très, très importante avec le premier violon qui gère l'orchestre pas mal. L'orchestre est capable de jouer tout seul.
Oui, mais mettons que justement, le directeur, il file pas, ou le premier violon, il file pas, qu'est-ce qui se passe?
Ben, le premier violon, d'habitude, si, comme tantôt tu disais, il arrive quelque chose, mettons qu'il brise une corde, majoritairement, c'est l'autre qui va y prêter tout de suite son violon.
Ah, oh, OK.
Donc, il va prendre le violon, le deuxième, le violon associé. Là.
Je pensais que c'est le deuxième violon, il prenait la partition du premier, non. Mais non, carrément. Oh, mon Dieu.
Ouais, ouais. Puis,
il est payé plus cher, le premier violon. Ouais,
j'imagine. J'écoute, je connais pas les, okay. Les contrats de...
Mais
il y a des chefs d'orchestre... tu sais qu'il y a des chefs d'orchestre qui sont morts en dirigeant. Au maître... je sais pas si c'est au maître, mais Sinopoli qui dirigeait souvent au maître. Il est mort en dirigeant. Hey, c'est quand même pas pire, ça. Hey, là,
ça fait tout un show, ça.
Ça, c'est plus tough à remplacer, sur le coup, tu sais. Mais des affaires, il y en arrive des tonnes. Hey, moi, à un moment donné, je chante l'opéra La Bohème, OK? Puis dans La Bohème, au dernier acte, OK, bon, on s'entend, c'est de l'opéra, ça veut dire qu'il y a une soprano qui va mourir pendant à peu près 30-40 minutes à la fin de l'opéra, en chantant très bien, et puis elle est agonisante, là. Mais moi, donc, ce soir-là, OK, on est ensemble, puis la soprano, elle chante, mais je trouve qu'elle meurt mieux que les autres soirs. Fait que
elle
meurt
bien.
Je suis comme, tabarnane, comment ça qu'elle meurt mieux que les autres soirs? Fait que moi, écoute, je suis là, je suis à côté d'elle comme ça, puis on est dans le lit, puis moi, je suis agenouillé à côté. Fait que moi, de temps en temps, entre les... Puis on chante, puis là, de temps en temps, quand je chante pas, je dis, es-tu correct? Puis là, elle me répond pas. Quatre fois, elle me répond pas. Fait que là, je suis là, es-tu correct? Puis là, elle m'en est servie, puis elle me dit, détache ma robe. Pas de problème. Fait que là, je détache sa robe. Là, elle dit, détache le corset aussi. Fait que là, je détache tout ça. Puis elle continue à chanter. Elle manque pas une ligne, là. Mais plus ça va, plus elle penche et court.
Elle meurt pour vrai.
Fait que moi, je chante. Là, à un moment donné, elle se revire d'abord. Je vous le jure, là. Elle se revire, elle dit, je pense que je vais vomir. Il y a 3000 personnes devant nous autres, là, OK? Puis c'est Yannick Nézet-Séguin, le chef d'orchestre.
Non, ben non.
Puis là, moi, je suis comme, non, on ne fera pas ça ici, là. Fait que je me lève, dans le décor, il y a comme une table. On est comme dans un appartement à Paris, dans les combles, tu sais, dans le toit. Puis là, il y a un petit meuble avec un pot de chambre puis un bol. Je m'en vais chercher le bol. L'affaire, c'est que je me lève du lit, Je m'en vais
chercher. T'as toujours ça. Je
chante, là. Toi, tu chantes.
Ouais, je chante, t'entends ça. Puis là, je sais que dans le coin, là, il y a le régisseur. Fait que je prends le bol, j'y monte le bol. Le public, lui, il sait pas, tu sais. Il pense que c'est la mise en scène que je suis là avec le bol. Je le regarde dans les yeux, là. Je regarde le bol. Là, je m'en vais vers la... Je mets ça sur le... Je dépose ça sur le lit.
Je sais pas.
Puis là, on continue à chanter. Et là, à ce moment-là, dans le... c'est le dernier acte, il y a la basse qui, dans la mise en scène, chante son air complètement dans le coin là-bas. Fait que nous autres, la lumière s'éteint sur nous autres, puis ça s'en va sur lui. Fait que je me dis... J'essaye le tout pour le tout. Parce que d'habitude, dans les maisons d'opéra, on a toujours une...
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ton image, ça vaut tout. Des milliers de dollars sont investis à chaque année, mais si ta pub est pas forte, ben ça passe inaperçu. Moi, je suis créateur de contenu, puis je suis vidéaste. Je peux aider ton entreprise à mettre l'image qu'il te faut pour être à son meilleur. Si t'as envie de travailler avec moi, je m'appelle Mario Morneau de Production Météor, et ensemble, on va réaliser ton projet à ton image. À bientôt, j'espère.
Je prends... C'est Marie-Josée Laure. C'est Marie-Josée Laure.
Oh my God!
Je prends Marie-Josée dans mes bras. Je sors avec Marie-Josée. J'arrive en coulisses. Il avait compris. Écoute, il était même là avec une chaise roulante, tout le kit. Je dépose Marie-Josée. Je l'assois dans la chaise roulante. La fille qui, donc, est là pour la remplacer est juste là. C'est une jeune Canadienne. Elle vient de l'Alberta. Écoute, je l'appelle. Elle est en jeans puis en T-shirt, là. Parce qu'elle n'a pas le temps d'aller changer, là. Là, je la prends dans mes bras, puis sa tête est ici, puis je rentre sur scène pour aller l'installer dans le lit pendant que la basse chante. Puis tout le long que je marche, je l'entends. Elle est là, « Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my... » Elle, elle pense pas qu'elle va chanter. Je la dépose dans le lit, l'éclairage revient sur nous autres, puis là, il y a comme une réaction de la salle. Je comprends, je viens d'en sortir une noire, j'en rentre une blanche. J'ai dit, ben, elle filait vraiment pas. Mais ça, là, des histoires comme ça, j'en ai des tonnes parce que...
Oh, wow!
Bonne!
Ben, oui, oui.
Ben, voyons!
Ah oui, je te jure, parce que t'as pas le choix, tout continue. À un moment donné, je fais Tosca à l'Opéra de Calgary. Puis à la fin, mon personnage, Mario Cavaradossi, il se fait fusiller. Puis c'était capotant parce que l'équipe d'effets spéciaux, là, c'était des fous dans la tête. J'avais des tuyaux en dessous de mon costume, ma chemise, avec à peu près une douzaine de places, là. Puis j'avais des poches de sang en dessous de chacun de mes bras, OK? Puis là, donc,
tu me donnes le goût de faire de l'opéra.
Là, t'as les 12 gardes qui rentrent, puis là, ils amènent mon personnage sur le bord d'un mur, puis là, il y en a 6 qui se mettent à genoux, puis les autres 6 sont debout, puis tu sais. Puis là, en coulisses, ils ont des détonations, puis là, ça fait vraiment des détonations dans ton costume. Puis moi, tout ce que j'ai à faire, c'est peser sur mes sacs de sang.
C'est la danse des canards.
Sauf que là... Écoute, en plus, j'en ai un dans le dos parce qu'il y a un des... Pendant qu'il m'installe, il y a un des gardiens qui me met comme ça en me tapant là, un sac de sang en arrière. Ce qui fait que quand je me fais tirer, je revole sur le mur. Puis là, ben le sang éclate. Puis là, je glisse du mur. Fait que ça fait une traînée de sang.
C'est super.
C'est écœurant. Fait que là, il s'installe, la musique est dramatique. Il me tire, papa, 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 je revole sur le mur. Ah! Puis là, je glisse. Puis là, je suis rendu à terre, puis je me dis, ce soir-là, je vais mourir les yeux ouverts. Tu sais, ça va être comme plus dramatique. Fait que je finis à terre, puis je suis de même, puis le mur est là, puis tout ce que je veux, c'est mon sac de sang en plastique. C'est accroché sur le mur. Fait que le monde, au lieu de capoter, puis de pleurer, puis tout ça, les gens sont crampés dans ça. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des histoires, normalement, il y en a, là, des tonnes et des tonnes. Non.
Wow.
Tu sais que dans Tosca, ça m'est pas arrivé à moi, mais le personnage de... Après que Mario se soit fait tirer, la Tosca, elle se rend... C'était supposé être des fausses balles. mais il est mort pour vrai. Fait qu'elle capote. Fait que là, elle se sauve, elle monte en haut du Castel Sant'Angelo, à Rome, là, juste à côté du Vatican, il y a le Castel Sant'Angelo, puis elle se jette en bas de ça. Fait qu'il y a toujours des trucages, mais il y a des histoires célèbres, tu sais, parce que des fois, il y a des chanteuses qui, tu sais, sont pas petites, fait que c'est pas facile de les faire sauter dans le vide. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Mettons, une fois, histoire célèbre, il y a une trampoline. Puis la chanteuse, il faut qu'elle arrive sur le trampoline, puis que tout de suite, elle s'en va.
On dirait que je suis
sur le face. Mais à remonter deux, trois fois.
Ah.
Fait qu'on y a vu comme le dessus de la tête, tu sais, genre, elle saute. Là, il y en a.
Ça, c'est drôle.
Il y en a de...
C'est donc bien violent.
Moi, Toshka, une fois, c'était à l'opéra, je pense que c'était à Vancouver. La fille, elle saute. Elle saute pas de haut, là, en plus. Elle sautait de. C'est un jeu d'éclairage, c'était écœur, hein. Puis elle sautait sur un matelas. Mais il y avait deux matelas, OK, dans ce sens-là, là. Deux, un, comme ça. Puis pourquoi ce soir-là, il y a un technicien qui a passé dans la coulisse juste avant qu'on commence le dernier acte. Puis il a vu ça, puis il a pensé que c'était une erreur. Fait qu'il a pris celui-là, puis il l'a emmené à côté. Sauf qu'elle a sauté là, elle s'est en allée sur ses genoux comme d'habitude, puis elle se laissait tomber à pleine face. Mais là, la face est arrivée là.
Oh.
Fait que
oh, non.
Nous autres, on est sur scène, là. Moi, je suis mort, là. Je fais le mort. Mais j'entends, là. Fait que là, je fais comme, hey, y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que, non, mais attends, là, c'est la musique finale incroyable, c'est Puccini, elle écoute tout arrache. Là, blackout. Là, on revient pour le salut. Elle rentre sur la scène, écoute. Elle saigne à la babine de même. Puis là, les gens sont comme, oh, wow, le trucage! Tu sais, ah non, c'est, écoute, elle a perdu deux dents. Oh.
C'est d'une violence!
Ouais.
Hey,
en tout cas, fait qu'il y en a beaucoup. Parce que, pourquoi? Parce que tu peux pas t'arrêter, tu sais, c'est la musique continue.
Le, show must go
le chef, là, quand je faisais ça, là, puis que je me promenais avec mon bol, Yannick Nézéguin, il était là, il me regardait, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que on répète longtemps d'avance, donc le chef d'orchestre, il sait exactement quand t'arrives telle phrase où tu vas être, puis là, tout à coup, voyons ce qui est... T'sais,
mais tu imagines si elle avait vomi.
Ah,
t'imagines?
Écoute, ça aurait été assez spécial.
Ah, mon Dieu.
Mais pauvre elle, écoute.
Ben oui, elle a vécu l'enfer.
Elle a eu un genre de chute de pression. Elle avait commencé ses règles. Puis,
le corset.
Ça a été super. Puis, tu sais, il y avait de la nervosité puis tout ça. Puis là, tout à coup, elle, ça filait pas pantoute. Là. Mais elle, attends. Je sais pas si vous la connaissez, Marie-Josée Lars, une chanteuse d'opéra classique, magnifique.
Oui.
Puis elle a souvent des cheveux là immenses. Là. Puis ça, là, des fois, elle nous compte ça prend 12-14 heures à faire, là, plein de
madame stresse
ça, tout ça. On joue l'opéra La Bohème encore, puis il y a un truc vraiment important. Premier acte, OK, il faut que elle se promène avec une bougie, puis il faut que le ténor éteigne la bougie. S'il éteint pas la bougie, ça marche pas. L'histoire marche pas, OK? Fait que moi, elle se promène avec sa bougie. Il faut qu'elle fasse ça de même pour que moi, elle voit pas. Moi, je passe à côté, j'éteins la bougie. Mais là, ce soir-là, elle fait ça de même.
Oh non! Non!
Ses cheveux prennent en feu instantanément. Là, moi, je suis là, à côté d'elle, puis je tape. J'éteins pas la bougie, j'éteins le soprano. Là, puis elle est comme elle le sent pas, tu sais. Fait que, voyons, pourquoi est-ce qu'il est dab, tu sais. Mais là, ça va bien jusque-là. Mais après, là, il nous reste tout le duo à faire, son air, ben, en tout cas. Mais tout le long qu'elle marche à la scène, elle a fait de la boucane, elle-là.
Avec une moitié de tête.
Non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Tu continues. Wow. Tu continues.
Wow. OK. J'ai pas d'anecdote, moi, qui peux
raconter ça, là.
Moi,
je suis tombée.
À un moment donné, une corde de guitare qui a brisé.
Moi, je suis montée sur une scène puis je suis tombée en pleine face. Fin de la discussion.
Tu t'es relevée?
Ben oui. Ça a fini là, moi.
T'es-tu cassé quelque chose?
Mon orgueil, ça a fait beaucoup mal.
C'est pas fait mal.
Mais non. Tombée en pleine face en plus. C'était Geneviève Gagnon, je remonte.
Bang!
C'est sûr qu'à comparer ça, je torche pas.
Mais non, c'est...
Fait que c'est ça.
Toi, t'es déjà arrivé, toi, tomber ou...
Passer en feu,
passer au feu. Manquer de voix.
Non, manquer de voix, jamais.
Oh, ça, c'est rare.
Ça vous arrive-tu d'avoir des rots ou quelque chose?
Moi, oui, régulièrement, vu que je mange comme une poubelle.
En chantant, parce que moi, je fais attention, on fait attention à ce qu'on mange avant un show, mais tu sais jamais, tu fais boum, tu sais.
Mais moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je suis comme... J'ai une technique.
Une petite technique. Non, moi, je attends. Un blanc de mémoire mémorable, une fois.
Mémorable dans le sens
dans que... Dans le sens que c'était...
Ça revenait pas.
C'est la scène finale de l'opéra Carmen. OK? Fait que ça, c'est maudit avoir un blanc dans un opéra comme ça parce que la plupart du monde dans la salle connaissent les mots, là, tu sais. Mais là, moi, je suis persuadé que c'est la mezzo qui a eu un blanc. Fait que moi, c'est le duo final, chez moi, chez toi. Puis là, la mise en scène, c'était comme une espèce de match de lutte, là, tu sais, dans le sens qu'on tournait, on se regardait, puis on tourne, tu sais, sans arrêt, tu sais. Fait que moi, quand je suis dos au public, puis que là, il n'y a plus personne qui chante, je la regarde, puis je suis comme... À toi, tu sais. Fait qu'elle, quand elle revient, puis c'est elle qui est en avant, elle est comme... Fait que ça dure là, comme 40 secondes. C'est long, 40 secondes, où il n'y a personne. Mais c'est ça, ça paraît pas tant pour quelqu'un qui connaît pas l'affaire. Puis là, finalement, oups, il y a comme une phrase qui m'allume, puis je me mets à chanter ça, et je me rends compte que c'est son bout à elle. Mais c'est pas grave, ça va nous replacer, tu sais. Fait que ça nous replace. On finit, puis là, évidemment, en coulisses, je dis, hey, écoute, c'est pas grave, puis tout ça. Puis là, elle me dit, c'est pas moi, c'est toi. Non,
je suis Marc Hervieux, je ne me trompe pas.
J'ai jamais eu de blanc de mémoire de ma vie, mais c'était moi. C'était moi, c'est ça.
Wow. T'en as-tu déjà eu, toi, des blancs de mémoire?
Oh, ça m'arrive, mais pas tant. J'ai quand même une bonne mémoire. Là. Je suis capable de retomber. Je peux chanter le deuxième couplet. Hop, je pars avec le deuxième couplet. Ouais, je vais chanter le premier, deuxième. Je suis pas si pire, franchement, là-dessus. Là.
Parce qu'en musique, vous pouvez vous reprendre. Nous autres, c'est tough.
Là. Ouais, non, vous autres, c'est... Si t'as manqué le punch, t'as manqué le punch.
Parce qu'en plus, ça avance, là. Ouais, mais tu sais, du théâtre, là. To be or not to be, là. Si tu l'oublies, là, tu peux y penser pendant un bon bout de temps, puis avoir un indice de quelqu'un, puis tu vas finir par le dire, puis tu peux l'étirer, tu peux le dire comme tu veux. Mais en musique, c'est parce que à partir de la seconde où tu penses, la musique est déjà rendue plus loin.
C'est ça.
Par contre, moi, je joue la guitare. Fait que je lead, là, je suis chef d'orchestre de mon band. Fait que si, des fois, ça m'arrive, des fois, je fais « Oups, j'ai un petit blanc, c'est quoi? »
Solo!
Déjà? Non, mais là, le band, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe? »
Ben, faut qu'ils te connaissent.
On repart là, eux autres, ils me connaissent tellement qu'ils me suivent. Ils font « Oh, qu'on a rajouté des petits trois temps ici, là. » Mais non, je suis comme toi.
Hey, à un moment donné, j'ai fait la tournée des 40 ans de Paul Piché. Le show de 40 ans de carrière de Paul Piché. J'ai fait 3 ans de tournée avec lui.
Lui, il est cute, Paul Piché. Hein? Lui, là, quand on met toutes nos voix ensemble, il appelle ça un pain de voix.
Un pain de voix.
Tiens, on va faire un pain de voix.
Mais Paul, là, c'est un phénomène incroyable. Je l'adore. Mais tu sais, il est très lunatique puis tout ça. Mais nous autres, on chantait une de ses chansons qui s'appelle Les Ruisseaux, qui est pas connue, mais qui est c'est vraiment beau. On est au Centre Bell, OK? Il y a du monde, là. Lui, il rentre sur scène, il fait juste « bring », puis le Centre Bell veut exploser. Mais ce soir-là, notre chanson « Les Ruisseaux », là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et lui et moi, on a inventé une chanson qui n'existait pas.
Ben voyons, les deux!
Je vous jure! Hey, on s'en parle à chaque fois qu'on se voit depuis ce temps-là parce que on ne sait pas comment ce qu'on a fait pour inventer des nouvelles paroles, chanter quelque chose d'autre, finir par tomber sur nos pattes à un moment donné.
Ça, c'est de l'expérience.
Mais tu sais, tu as quand même 20 000 personnes d'en face. Là, faut que tu t'arranges avec tes
trucs. C'est quoi les ruisseaux? C'est quoi cette
Les ruisseaux, ça pleure à rien quand ça regorge d'eau. C'est une chanson qui n'est pas connue de lui, mais c'est beau, là, c'est beau, c'est incroyable.
Paul Piché. Il faudra l'inviter au podcast, ouais. Paul Piché.
Ah ouais, il y a des pas pires histoires.
Il est fascinant. Sa passion pour la politique.
On est au théâtre de la ville à Longueuil. puis on est 10 chanteurs à chanter 2 chansons de Brel dans le show. Puis lui, il passe comme 3 avant la fin. Puis là, le show commence, puis il n'est pas là. Fait que...
Ça, c'est classique, ça, c'est Paul Piché.
On ne stresse pas tout de suite, mais là, après 1 ou 2 chanteurs, la régisseur appelle. « Salut, Paul! »« Salut! Qu'est-ce que tu fais, Paul? » Ben, je fais du patin avec ma fille au parc, là. C'est parce qu'on est en show, là, présentement, c'est commencé. Où ça? À Longueuil? Et je suis à Outremont, moi, là. Fait que là, il part, je vous jure, là, pour entrer au théâtre du Vieux-Longueuil, là, c'est comme un escalier en colimaçon, comme dehors, là, des maisons à Montréal, les triplex, là. Il arrive, là. Puis la prochaine chanson, ça va être lui, OK? Il descend l'escalier, puis il change dans l'escalier. En descendant, il enlève ses culottes de sport.
De là, la toune, l'escalier.
Exact. Puis là, écoute, il y en a des histoires avec...
Hey, mais tu me fais penser, l'été passé, c'est-tu l'été passé ou l'été d'avant? Non, c'est l'été d'avant. J'étais au Saguenay. Je fais un show. Moi, je suis de 8h30 à 10h et de 10h30 à 11h, à 1h30 plus tard, chez Éric Lapointe. On fait un double billing, qu'on appelle. Fait que il fait pas le temps, il est pas là au test de son. Moi, je suis pas capable de faire un show sans faire un test de son. J'aime ça. On fait le show. Je pars le show à 8h30. C'est plein de monde. On a du fun. Et à un moment donné, j'entends dans mes moniteurs en avant, « Fais plus de show! Fais plus de tunes! Fais plus de tunes! » Comment « Fais plus de tunes? » Là, mon bassiste vient me voir, « Éric est pas arrivé! Fais plus de tunes! » Je peux pas. J'ai tiré un petit peu les solos, mais à un moment donné, on finit le show vers 10h30. On change over, qu'on appelle. On change nos instruments. Il arrive pas. Il arrive pas à petit cuir. Petit cuir, fait que là, tout le monde panique. Qu'est-ce que le public commence à huer, tu sais? Mais petit cuir, il vient de s'acheter une auto électrique. Il sait pas comment ça marche. Il est poigné à l'étape dans le parc. Il sait pas comment brancher. Fait que c'est drôle, son guitariste, Stéphane Dufour, avec qui j'ai composé la chanson Vivante. C'est un bon ami à moi, puis Et c'est lui qui joue avec Éric depuis toujours maintenant, là, Stéphane. Il dit, Chris, il est même pas capable de se faire cuire une toast dans un toaster. C'est-tu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un char électrique? Là, il est arrivé quasiment à 11h30. Et le monde est huait, là, ça va pas de bon sens. Mais, fait que c'est ça.
Mais oui, show must go on.
The show must go wrong.
Il est pas là. Il y a pas de show.
Il est arrivé. Mais quand il est là, il donne un super show, Éric. C'est juste que, comme petit Paul...
Il a fini tard.
Mais t'habites à Tête-Fermaine?
Ben, j'habite part-time, ouais.
Tu sais que de là, moi.
Tu viens de là?
Oui, monsieur! Maman, nous autres, on est à Black Lake.
Black Lake, ben oui, ben oui.
C'est
ça,
Black Lake, Tête-Ferd. Premièrement, faut dire Tête-Ferd, dis-le comme tu
veux. Tête-Ferd, faut dire Tête-Ferd.
Fait que faudrait aller voir la Flincotte pour te dire des places où aller. T'es allé voir la Flincotte?
Donne-moi des adresses.
T'es voir la Flincotte, oui.
Donne-moi des adresses.
Ben oui.
Non, mais l'amour m'a amené.
Oui, t'es fraîchement fiancé.
Oui. Ben oui.
Janvier.
Depuis la veille du jour de l'an.
Ben, bravo!
Félicitations! Tu le mérites! Ouais.
Est-ce que tu aimes la région de Tête-Fermaine?
J'adore ça!
C'est beau, hein?
Ça, c'est beau! C'est...
Les lacs, les bois,
Les mines! Le lac Elmer, là, c'est immense!
C'est là que je passe mes étés, au lac Elmer! Un beau lac! À Garde-Bé!
Garde-Bé, beau lac!
Ah ouais, t'es un petit
cœur! Tu viendras me voir, moi, j'ai un bateau!
Bon! Ben, t'auras jamais dû me dire ça, tu vas le regretter à Disraeli!
Hey, excusez-nous, on jase entre nous.
On revient.
On va revenir.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marc? Ou pour,
ah oui,
pour
c'est vrai. Vous avez sur la table des codes QR. Vous pouvez poser vos questions.
Des questions.
Les habitués le savent. Est-ce que tu as des questions?
J'ai oublié de le demander.
On a reçu des questions, oui.
Oui, allons-y.
Par rapport à ta voix, à quel âge as-tu découvert ta voix?
Très jeune, très jeune. Je savais... Je savais très jeune que j'avais une voix particulière. Quand j'étais dans les louveteaux, c'est que c'est jeune. C'est
je ne sais pas c'est quoi les louveteaux.
C'est les scouts, mais plus jeunes.
Ah!
Oh. Ouais. Je chantais à l'entour du feu de camp, là. Et puis, je savais déjà que j'avais une voix forte. Puis, j'imitais les chanteurs d'opéra que j'entendais à la TV. Fait que là, tout le monde trouvait ça bien drôle que j'aimais de ça.
Wow. Mais tu n'avais pas de théorie musicale,
Non.
C'est ça, tu étais tout à l'oreille.
Moi, je suis rentré au conservatoire, je ne lisais pas une seule note de musique. Mais il a fallu que je mette les bouchées quadruples pour réussir à parce que les exigences, c'est ça. Mais c'est quand même fou de penser que je suis rentré au conservatoire par l'instrument qui était mes deux cordes vocales. Et puis, j'ai tout fait mes études au conservatoire de Montréal. Après ça, je suis allé faire d'autres choses ailleurs, mais le cœur de mes études, c'est là. Je lisais pas la musique quand j'ai fini. Évidemment, j'avais tout repris le temps perdu. Puis aujourd'hui, j'en suis directeur général.
C'est fou.
Fait que ça, c'est vraiment trippant. Moi, sais-tu où ça me fait tripper le plus? C'est parce que moi, là, justement, dans Hochelaga Maisonneuve, là, je faisais rire de moi quand je disais que je voulais faire ça. Puis, j'ai chanté sur les plus belles scènes du monde entier.
Exact.
Puis, le conservatoire, je le dirige maintenant.
C'est
fait
fou.
Que ça veut dire c'est que c'est, tout est possible pour tout le monde.
C'est tellement un beau message,
Maxime. Les ticus d'Hochelaga Maisonneuve qui pensent que sont nés pour un petit pain puis que c'est pas pour eux autres et tout ça, ben tout ça, c'est faux.
Tellement.
C'est, tout est possible pour
quel
tout le monde.
Quel beau tellement message!
Est-ce que tu as déjà... Oui, on l'applaudit.
Non,
ouais,
c'est pas fini. Moi, j'ai des questions que je voulais poser.
Moi, j'en ai une autre. Est-ce que tu as déjà enseigné le chant?
Pas beaucoup. J'ai fait des fois ce qu'on appelle... moi, j'aime pas ça appeler ça de même, mais ils appellent ça des classes de
maître. Des classes maîtres, oui.
Ben moi, j'appelle ça des classes de groupe. Tu sais, j'aime ça aider les gens. C'est plus ça. Je pense pas que j'ai la fibre de l'enseignement. Tu sais, j'aime ça, jaser de tout ça, parler de tout ça. Je peux parler de ça sans fin. Aider les jeunes, enseigner, c'est une autre affaire. Puis surtout, t'as une grande responsabilité quand t'es le... Parce que la particularité du conservatoire, c'est que l'enseignement, c'est un à un. C'est-à-dire, le prof, l'élève. Il y a un élève à la fois. Puis c'est ça qui fait le succès final. Parce que quand tu passes toutes tes années à être avec un seul prof, tu avances à une vitesse folle. Puis si tu décides de t'y mettre vraiment, il n'y a pas de limite à ce que tu peux apprendre. Dans les cours de langue, par exemple, parce que les chanteurs, souvent, on se fait demander ça. Comprenez-vous ce que vous chantez? T'sais, on chante en italien, on chante en allemand, on chante dans
toutes les langues. Moi, je chante dans toutes les langues.
On comprend parce qu'au conservatoire, on apprend. Mais moi, j'ai appris l'italien puis l'allemand. On était une classe de deux.
L'allemand.
Fait que tu pendant 50 ans, pour ton bac, ta maîtrise, t'es juste deux à la fois. Fait que tu l'apprends, la langue.
Ouais, mais parle l'italien, ou mais...
Si.
Faccia di cazzo.
Ah, parce que tu sais deux, trois mots, puis t'es capable de
faire ça. Faccia di cazzo, en mangiando le misère.
Va fan culo.
Va fan culo.
Ah, je veux pas vous déranger, non?
Ah, moi, je veux savoir, y a-tu un show dans ta vie que tu voudrais oublier que faire? Le pire show de ta vie.
Le pire show de ma vie, oh boy.
Mais il y en a qui n'en ont pas de pire show, mais il y en a qui ont des pires shows de la vie.
J'ai vécu une affaire qui était un show qui s'appelle Lucia di Lammermoor, un opéra. Lucia di Lammermoor, c'est un opéra italien. Puis c'était à l'Opéra de Montréal. Puis ça avait très mal commencé. Parce que comment ça fonctionne à l'opéra, c'est que la première journée des répétitions, on arrive, les chanteurs, puis on chante l'opéra. Mais on pourrait être en représentation le soir même. Là. On sait toutes nos affaires. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand tu places la mise en scène, tu peux pas rajouter la mise en scène, puis lire ta musique, puis avoir ta partition dans les mains. Ça marche pas. Fait que là, tu fais ça de même. Puis cette fois-là...
Puis, parenthèse, ça prend combien de temps à se préparer pour un opéra?
Ben,
comme ça.
Ça dépend de chacun. Tu sais, chacun, tu sais, reste que tu as un opéra de trois heures à apprendre par cœur.
Fait que,
tu sais, faut que tu y mettes le temps que ça prend. Il y en a qui c'est plus rapide, il y en a que... Moi, ma façon à moi, c'est beaucoup plus lent, mais c'est là pour toujours.
Okay.
Toutes les opéras que j'ai appris dans ma vie, je peux te les partir là, puis je vais les faire au complet.
Okay.
Tu sais, ça reste là, tu sais. Fait que, en tout cas, Lucia... À la fin, Lucia, elle meurt. C'est l'opéra, hein? Fait que là, le ténor vient sur son tombeau, blablabla, tout ça. Puis le metteur en scène, il était français, puis il pensait que le cast était tout américain, tu sais. Puis là, il disait des répliques fortes, tu sais, genre, il chialait sur le ténor, tu sais, « Elle est pas déjà morte! » Fait que là, lui, à un moment donné, il arrête de chanter, il le regarde, puis il dit... Elle est peut-être pas déjà morte, mais toi, t'es sur le bord d'être mort si tu continues. Là, il y a comme un froid, tu sais. Puis là, ben, on a fait toutes les répétitions, puis ça a été très mal. Le jour de la première, le soir de la première, la soprano nous appelle dans sa loge, on s'en va la voir, Mary Dunleavy, c'est une Américaine, elle. Puis elle dit, je veux juste vous dire, je veux pas vous mettre dans le trouble, mais ce soir, je ne ferai aucune mise en scène qu'on a travaillée depuis 3 semaines. Je vais faire ma mise en scène.
Pourquoi?
Parce qu'elle trouvait ça archi mauvais.
Okay.
Qu'elle avait raison.
Okay.
De ce qu'elle avait fait. Fait que là, ça a été spécial. Ça a été spécial. Mais ça, des histoires comme ça, il y en a beaucoup, ça aussi, tu sais, c'est de l'humain. Puis moi, j'ai fait une fois un Carmen où la Carmen a été virée, si tu veux, après la générale. Fait que le lendemain, c'est la première.
Yep.
Puis la nouvelle Carmen qu'ils ont réussi à trouver, elle arrive à l'aéroport genre à 6h moins quart.
Faut s'attendre.
Il shoot à 8h.
Il la ship à Place des Arts, elle met son costume, puis le show commence, puis elle rentre, puis on l'a jamais vu, on l'a jamais entendu. Puis elle rentre sur scène, puis elle va faire évidemment ce qu'elle...
Sa partition.
Sauf que ce soir-là, là, la réaction des choristes était parfaite, parce qu'il n'y avait jamais rien de tu sais, des fois, les gens ont fini par tomber dans une espèce de routine, tu sais. Fait qu'on réagit un peu trop à l'avance des fois sur des affaires. Mais elle faisait tellement des affaires que tu t'attends pas que les gens réagissent. C'était vraiment incroyable, puis elle a été super bonne. Mais sauf que tu passes la soirée...
Mais il faut que ça soit grave en salle. Mais moi, ça m'est arrivé... Sa job avant la générale.
Mais moi, ça m'est arrivé de... J'étais en train de... Dans ce temps-là, je faisais Starmania.
Attends, t'as fait Starmania, toi?
Oui, j'ai fait beaucoup Starmania.
Hein?
Énormément Starmania, ben oui. Je l'ai fait à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Paris, à Séoul. Puis, là, j'étais à Québec. Grosse production. Là, c'est Michel Lemieux puis Victor Pilon là, qui font la mise en scène. C'est spectaculaire. Pis on est en pleine répétition. Puis après ma répétition, le soir, je regarde mon téléphone. J'ai comme 15 appels en absence, tout le même numéro. Je regarde, c'est l'Opéra de Vancouver. Fait que je rappelle. Puis là, ils me disent, peux-tu t'en venir demain pour remplacer le ténor dans Bohème? Fait que là, je dis, écoute, moi, je suis en répétition, je suis contrat avec. Fait que je parle au directeur artistique de l'Opéra de Québec. Le lendemain, j'étais chanceux pour les 2 prochains jours, j'étais pas trop dans les répétitions. Fait que je suis pris l'avion.
Oh mon Dieu.
J'ai fait la même situation que la. T'arrives là-bas, il te fit un costume. Puis là, t'es en coulisses, puis ils disent, OK, l'important dans cette scène-là, c'est que tu sortes par telle place. OK. Go, on rentre, puis on chante.
Je veux juste vous dire que ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là, ça c'est des forces de la nature. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a des jeunes... Là, t'es directeur général, j'aime ça dire ça. T'es directeur général du Conservatoire du Québec. Puis est-ce qu'il y a un petit Mozart là, qui dort à quelque part, là, un petit génie,
des
tonnes? Des tonnes?
Des tonnes dans le
réseau. Ah oui, hein? Qui s'en viennent, là.
Hier soir, j'étais à Québec pour le concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Québec, de musique de Québec. Il y avait des étudiants en théâtre aussi qui faisaient des textes, tout ça, c'était écœurant. Le petit jeune Henri là, qui a joué le concerto, là, je veux dire, vous ne pourriez pas vous imaginer. On a une à Montréal, Itza, qui est tout petite, elle doit avoir à peu près 8 ans. Elle rentre sur scène avec sa petite robe, ses petits souliers, puis ses petites boucles, puis une belle petite face, là, les cheveux longs blonds. Puis elle s'installe, puis elle joue, mes amis, là, c'est spectaculaire, tu sais. Fait que, mais ça n'arrive pas tout seul.
C'est un don.
Elle, là, je vous jure, là, l'été, quand le conservatoire est fermé, puis que nous, on travaille pareil dans les bureaux, là, à l'intérieur du conservatoire, là, il y a comme un atrium, puis les locaux de répétition sont, on les voit toutes, puis c'est vitré. Bien, tous les jours, sans exception, je suis arrivé, puis je voyais Itza dans son...
Ben c'est ça.
Ah, oh, mon Dieu!
Sans arrêt, la journée.
Elle a ça dans le sang, là.
Oui, c'est ça.
Mais tu travailles avec Mia aussi, avec Sinatra. Ça aussi, ça change. C'est quelque chose, Mia.
Non, mais Mia et Sam.
Oui,
les deux
aussi.
Sam qui était là maintenant. Hein. Je veux pas brûler des poches. Sam Champagne dans l'équipe de Corneille. Le grand, là.
Magnifique. Ah oui, ben oui, le beau.
Retiens juste s'il est beau.
Ouais. Non, mais
c'était spectaculaire. Même Roxane, elle filait pas bien. Là. On était là.
Ah ouais, elle a trouvé son goût, Roxane.
Ben, même Roxane, c'était rare qu'elle bégaye devant un gars, puis elle capotait. Là. C'était...
mais ce que je trouve magnifique de ce... Bon, d'abord, moi, tu sais, au départ, c'était supposé être Marie-Ève Janvier. C'était Marie-Ève et moi qu'on faisait cette tournée-là. Marie-Ève a attendu jusqu'à la dernière minute pour, même seconde, pour annuler cet engagement-là. Puis finalement, est arrivé l'équipe m'ont dit, bon, ça serait miotinaire. Moi, au départ, j'avais déjà vu, puis je savais cette équipe, tout ça. J'avais juste un malaise parce que dans le pacing du show, là, moi, je chante « I've got you under my skin », les yeux dans les yeux avec Marie-Ève, ça va, mais avec une petite fille de 17 ans.
« Got you under my skin
». Pas sûr que c'est ça.
Ça va être plus drôle.
On peut le faire si vous voulez, mais vous allez avoir des emails le lendemain matin. Hein? Mais on a trouvé la twist pour ça. D'abord, Mia s'est retrouvée à faire ce duo-là, par exemple, avec Sam. Puis nous, on fait Something Stupid que Sinatra faisait avec sa propre fille. Puis on le dit aussi. Tu sais, quand je rentre sur scène, je raconte ça. Je dis, ah, écoute, quand ils m'ont dit que ça allait être toi, là, j'ai pogné de quoi là sur un duo les yeux dans les yeux, tu sais.
Ouais.
Je dis, parce que techniquement, je pourrais. Puis là, on entend à chaque soir du monde dans la salle dire « Hey, ton père, ton grand-père. » Fait que, écoute, elle est fabuleuse. Ouais. Elle a un talent immense. Puis l'affaire, c'est qu'elle est super fine. Elle est à son affaire. Elle a de l'instinct. Elle a un instinct incroyable parce que même dans le show, des fois, elle essaye des affaires différentes. Ça marche pas tout le temps, mais elle en est consciente. Puis des fois, on s'en parle, elle me le dit. Elle dit, ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais d'autres fois, oups, ça marche. Moi, tu sais, là, comme je dis toujours, tu sais, avec la jeunesse que je vois, moi, à tous les jours dans les conservatoires, elle qui a 17 ans, tu sais, quand on entend, là, chialer sur la jeunesse, là, bien, de la belle jeunesse, il y en a.
Ça veut dire qu'elle avait 15 ans, ça fait 2 ans quand même, là.
Ouais,
elle avait 15 ans, puis elle était déjà hot de même, là.
Ouais, ouais, ouais.
Elle avait déjà un instinct, là, à Star Academy,
puis
là.
Sam, qui est une espèce d'Apollon incroyable, mais moi, là, il m'a vraiment impressionné parce que, de show en show, il s'améliore beaucoup. Tu sais, il écoute, il check, il me pose des questions. Et tu sais, il est vraiment incroyable. Puis, surtout, ce qui m'a beaucoup touché, à la Saint-Valentin, tu sais, son chum, c'est le chef d'orchestre de notre show.
Ah, OK. Okay?
Puis, à la Saint-Valentin, là, il faisait une chanson, il a fait Funny Valentine. Puis il l'a dédié à son chum sur scène là, avec un aplomb là, merveilleux. Hey, moi, là, je te dis, j'étais en coulisses, j'avais la gueule à terre, je me disais, wow, tu sais, faut être vraiment groundé. Puis c'est un jeune, lui aussi.
Oui,
là.
Oui, il est très jeune.
Faut être groundé, faut s'assumer, puis il faut dire, hey, moi, lui, c'est mon chum, puis c'est même son mari. Ils se sont mariés il y a quelques années. Puis moi, là, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ça, de voir qu'il y avait cette ce gotch-là.
Ben, est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as chantée sur ta première scène à vie?
Ça fait longtemps parce que, tu sais, j'étais très jeune.
Oui, oui.
Par contre, je me souviens de ma première apparition télé.
C'est quoi, 1989,
De bonne humeur. Avec
c'est quoi ça déjà? C'est
Michel Louvain qui animait De bonne humeur.
C'était le midi?
Non, c'était à 5 heures l'après-midi.
OK.
Puis Michel Louvain il animait ça avec d'autres co-animateurs. Puis il y avait il faisait comme une émission spéciale pour le bicentenaire de la Révolution française. Fait qu'on chantait des vieilles chansons françaises. Puis j'avais été pris pour ça. C'est ma première...
Qu'est-ce que tu chantais?
Écoute, toutes les vieilles chansons de la Révolution. Là. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Les vieilles chansons françaises.
Que j'écoutais ça
toutes
à 15-16 ans.
Des tunes que t'écoutais dans ton bain. Non, mais c'était comme un genre de pseudo-comédie musicale là, qui avait été montée pour ça.
Mais là, t'as-tu... Parce que ton CV est très impressionnant. Ta vie, ton chemin de vie est fascinant. Ah, c'est quoi tes aspirations pour les prochaines années? Oui, sûrement que tu rêves encore, mais c'est quoi justement tes rêves, tes buts?
J'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais eu de
non,
j'ai...
mais tu voulais chanter, être chanteur d'opéra, ouais. Tu l'as fait. Tu passes au suivant, tu te donnes au suivant, mais t'as-tu...
Ben, tu sais, regarde présentement... J'anime l'émission C'est si bon aussi à la radio.
Oui, c'est vrai, à Radio-Can.
C'est si bon à la radio. Moi, j'animais déjà à la radio, puis on m'a demandé de prendre la place de Claude Saussier qui a pris sa retraite. Puis j'anime ça, puis là, ça fait deux sondages en ligne c'est l'émission la plus écoutée de toutes les stations musicales confondues. Là. Rhythm FM, Rouge, tout ça. C'est l'émission la plus écoutée. C'est 22,9 % de parts de marché. Ça, ça veut dire que wow. En même temps que tout le monde écoute la radio le samedi de 16h à 19h, il y a 22,9% de personnes qui écoutent cette émission-là. Fait que, ah non, je capote, j'en reviens pas. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça, tu vois, j'aime ça. J'aimerais ça jouer dans une série. Tu sais, j'ai jamais fait ça, puis jouer un personnage vraiment loin de moi, là, comme j'ai eu la chance de jouer beaucoup. C'est ce qui m'attirait à l'opéra au départ. Parce que l'opéra, c'était la possibilité de faire de la musique et du théâtre en même temps. D'avoir un personnage. Puis là, j'ai plus le temps avec toutes mes occupations, mais ça, je m'ennuie quand même de ça, de jouer un personnage. À un moment donné, j'ai joué un opéra à l'Opéra de Montréal, ça s'appelle Les Pagliacci. C'était l'opéra que je voulais le plus jouer dans ma vie. Okay? OK? Puis on m'engage pour ça. Puis dans ça, à la fin, il y avait une scène. C'est des saltimbanques qui se promènent de village en village puis qui présentent une pièce de théâtre dans le village. Mais sauf que mon personnage, il se rend compte qu'il est cocu. Fait que le soir, pendant la représentation, il arrive sur scène puis il est pas mal réchauffé, tu sais, puis là fait que là, il devient violent puis tout ça. Mais le metteur en scène avait monté ça là vraiment super réaliste là. Puis moi ma fille Loyane a joué avec moi là-dedans. Oh. Puis elle a joué quelques fois des personnages d'enfants dans les opéras. Puis le metteur en scène est allé parler avant parce que il avait peur qu'elle ait une réaction un peu spéciale de son père qui démolit absolument tout. Puis, on n'y avait pas voulu, le metteur en scène, qu'on le fasse en répétition avant. Mais nous, on l'avait fait, mais sans les choristes, pour que tout le monde qui était sur la scène réagisse, parce qu'ils n'ont jamais vu cette scène-là. C'était vraiment trippant, là. Mais l'autre affaire, qui m'a bien impressionné, moi, deux fois dans ma vie, j'ai joué Roméo, dans Roméo et Juliette, à l'opéra. Okay. Puis, je capotais parce que la première fois que j'ai eu un appel, c'était à l'opéra de Calgary, j'ai appelé le directeur artistique, j'ai dit, tu m'as-tu regardé comme il faut? Là. T'sais, je ne suis pas le stéréotype de Roméo, moi, là. Tu sais, Roméo, là...
Je pourrais être Juliette, je suis pas le stéréotype de Juliette.
Non, mais tu sais, moi, Bohème, Traviata, Tosca, tu peux toutes les nommer, je joue toujours l'amoureux. Mais Roméo-Juliette, tu as une image du Roméo, ouais. Là.
C'est le beau
fait
gars.
Que, faut qu'il... Tu sais, tu montes au balcon, faut qu'il soit solide, le balcon, là.
Tu sais que moi, le morceau de Roméo-Juliette, je l'écoute en boucle, hein, depuis toujours. Ah oui. Ouais.
Tu sais que tu chantes devant ma sérieux,
là. Ben oui, mais je suis pas conne, je suis pas une conne, je veux qu'il me recrute ici. Évident. Je sais que son rêve, c'est que j'aille faire du bateau avec lui à Disraeli ben et me recruter au conservatoire. Je sais. Ça fait déjà 1h15.
Ah oui, hein? Mon Dieu, Marc, c'est tellement fascinant.
Non, excuse-toi pas. J'avais encore plein de questions. As-tu d'autres questions du public?
Y a-tu des gens qui veulent poser des questions?
Il en reste encore une qui a du bon sens. Ton spectacle le plus prestigieux ou celui avec le plus grand name-dropping?
Name-dropping? Bon, on va chanter ensemble, là. On va chanter ensemble.
Hey, t'as fait notre podcast.
À Terrebonne.
Régulièrement.
Régulièrement. Vous êtes du jazz.
Ça, vous avez chanté régulièrement.
On a chanté du jazz parce que son ami est chef. Comment il s'appelle?
Stéphane
Laforêt. Donc, j'avais fait un petit peu de jazz ensemble.
Ouais. On a fait d'autres affaires. Te souviens-tu, on avait fait un En direct de l'univers sur un bateau à Magog.
Oui!
Hein? Ah, de mon qui? Dieu, c'est direct de l'univers de qui?
Parce qu'En direct de l'univers, des fois, il accepte des spectacles corpo privés. Mettons, une compagnie dit, on va faire un En direct de l'univers pour notre compagnie. Puis là, fait que là, elle a dit, moi, j'adore Marc Hervieux. Oui, c'est France Beaudoin. Mais moi, j'aime bien Marc Hervieux, puis moi, j'aime bien France D'Amour. Fait que là, elle nous demande une couple d'artistes, puis on y va. Puis j'en ai fait plusieurs, justement, moi aussi. Puis moi, j'en ai fait un, justement, avec Paul Piché, puis Claude Dubois. Puis là, on arrive, là, puis on chante pour les gens de la compagnie. Ouais.
Ben moi...
Sors la sacoche, j'imagine que...
Name dropping... Ben, j'ai quand même... j'étais en répétition, dans la même salle de répétition, puis j'ai jasé avec Pavarotti.
Pardon?
Il a chanté à côté de moi. J'étais ici, puis il était là, 5 airs d'opéra.
Faut que tu m'en parles.
Moi, j'étais en répétition, dans une salle de répétition, pour répéter la Traviata. Puis, il y avait une rumeur...
C'est une rumeur qui est pas fin, là, lui, là.
Ouais. Puis là, il y avait une rumeur qu'il allait être... dans la salle voisine pour répéter avec l'orchestre, avec un orchestre. Fait que là, moi, à la pause, je savais ça, fait qu'à la pause, je m'en vais, il y a une petite fenêtre grosse de même, je regarde, en fait, il est vraiment là.
Oh.
Là, je suis comme, oh my God, tu sais, c'est quand même, c'est vraiment celui que j'ai écouté puis qui a fait que je fais ça. Là, c'est débarré. Je rouvre la porte. C'est comme, tu sais, moi, je suis en arrière, je le vois de face, il est complètement en avant. Là, c'est comme deux fois au moins la distance de la salle ici. Mais il y a les 80 musiciens sont là, mais eux autres regardent le chef, donc ils sont de dos à moi. Fait que ce que je me dis, c'est, ils vont me sortir si je suis pas supposé être là. Fait que là, je marche tranquillement sur le côté, je m'en vais là jusque-là, j'arrive en avant, puis c'est ça, il est là, je suis ici. Puis là, tout le long...
As-tu chanté devant toi?
Non, non. Là, tout le long que j'avance, il est en train de chanter « Addio fiorito asile », qui est l'air de dans « Madame Butterfly ».« Addio fiorito asile, di letizia e d'amor, sempre il mite suo sembiante, con strazia atroce vedrò. » Il chante ça, là, lui. Fait que là, j'arrive à côté de lui, puis là, il finit, puis le chef d'orchestre donne des indications aux musiciens, puis moi, je suis à côté de lui de même, tu sais, genre... Fait que là, il est plus...
Fala!
Ouais, c'est ça. Fait que là, j'y explique que je suis un jeune chanteur qui joue le rôle qu'il a joué. Mais si je joue ce rôle-là, c'est parce que je l'ai écouté 3 millions de fois sur disque. Puis je suis là. Puis il dit, ben prends mon banc, là, puis assieds-toi, puis écoute-moi chanter. Puis il m'a dit une affaire. Il m'a dit une affaire, c'est assez ésotérique. Il m'a dit, regarde-moi. Ah oui, excuse-moi, je m'en porte. Il m'a dit, regarde-moi. Il m'a dit, regarde-moi.
Pas écoute-moi.
Puis c'est vrai ça, parce que nous, bon, un moment donné, on finit comme les chanteurs qui ont appris, tu sais, la voix, puis tout ça, cet instrument-là qui est bizarre parce qu'on le voit pas, on y touche pas, c'est pas comme un piano. Ouais. Ben on finit par voir le son. On voit où la personne chante, si elle chante à la bonne place, si elle chante bien, puis tout ça. Puis là, lui... Écoute, je l'ai regardé, là, je l'ai pas tant écouté, je l'ai regardé. Puis je voyais comment il plaçait sa voix, parce que des fois, il marquait. Ça veut dire qu'il faisait juste chanter avec une petite voix de tête, un falsetto. Ça remplissait la salle au complet, pareil, puis il passait à travers 80 musiciens, mais juste parce que c'était à la bonne place. Il a chanté 5 heures d'opéra au total, tu sais. Puis moi, je suis arrivé en retard à mes répétitions après, mais je m'en sacrais, tu sais. J'étais comme, hey, écoute, ça a été, c'est un des grands, grands moments de ma vie. Mais j'ai eu la chance de côtoyer aussi là, des vedettes de plus populaires là, américaines ou quoi que ce soit, ou de me retrouver dans un dîner avec ceux qui connaissent un peu l'actualité dans le temps. Là. D'un côté, j'ai Oprah, puis de l'autre, j'ai Barbara Walters.
Ben voyons! Puis
là, j'ase avec eux autres.
Ça, c'est comme... ma gang, ça! Des mamères! Ça, c'est ma mère. Moi, j'ai écouté eux autres.
C'est
ben,
comme,
oui.
C'est capoté.
C'est
t'sais.
Des grandes personnes.
Ou Barbara Bush, une fois, là. Et puis...
Il n'a pas oublié que tu as chanté La Tendresse.
J'ai chanté avec La Tendresse Ginette. Avec Gigi.
Ah oui, Gigi.
Que je devais pas chanter. Hein? Je devais pas chanter parce que Ginette, elle avait fait enregistrer une chorale. Toutes mes interventions, là, c'est une chorale qui faisait la, 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 la. Puis Luc Plamondon, parce qu'on faisait Starmania, il arrêtait pas de me dire, faut que tu chantes avec Ginette, faut que tu chantes avec Ginette. Je dis, oh, mais là, je te jouais pas pour appeler Ginette, puis il disait, hey, salut, c'est Marc Hervieux, qui, tu sais. Fait que Luc avait parlé à Ginette. Là, Ginette m'a appelé, puis elle m'a dit, viens à la maison, j'aimerais ça te parler, puis t'entendre, tout ça. Je suis arrivé, puis là, elle est en retard, elle est allée à un rendez-vous pour ses oreilles. En tout cas, quand elle est arrivée, je suis allé dans le studio, puis là, ils m'ont dit, fais des lalas. À la place de la chorale. Fait que j'ai fait des lalas en me disant, est-ce que m'allais nailer ces lalas-là? Non, mais tu veux dire, va les faire. Avec un... Là, elle m'a dit, bon, ben, parles-tu italien? Oui. Puis, on a traduit des phrases en français. Puis, wow. Je suis retourné dans le studio, j'ai enregistré. Parce que le lendemain matin, elle partait à Paris pour mixer l'album. Fait que on n'avait pas le temps, là, tu sais. Puis, quand elle est revenue, il fallait qu'elle demande la permission parce que c'est une chanson de... Ma mémoire est basse, c'est Didier Barbelivien. Puis, il fallait qu'elle fasse entendre ça, là, tu sais. Puis, elle est revenue, puis ça a été...
Mais t'as enregistré La Tendresse chez Ginette?
Chez Ginette. Chez Ginette.
Carrément. Dans sa chambre. Fais-moi la tendresse!
La tendresse.
La tendresse. C'est quoi, tu dis?
Elle dit... Écoute-moi bien, mon petit garçon.
Oh, ouais, ah, ouais.
Je sais pas si t'es bien occupé, mais maman, elle aimerait ça si tu viens de faire un tour à la maison.
Mais c'est quoi tu dis en italien dans tout? Mettons que je chante, là. Fais-moi la tondreuse. Là, vas-y.
Nous autres, on disait des affaires pas qui se disent pas.
Mais c'est quoi la tonne? C'est quoi les paroles?
Que moi, je dis, c'est contento affezione.
C'est quoi ça dit?
Ben là, t'es capable.
T'es con, tu donnes l'affection?
Tanto affezione.
Con tanto affezione.
Ben, c'est pareil en français.
Es-tu là, Jen?
Ah, non, moi, c'était peurant. T'es peurant? Pogne ça de même.
Innamorata.
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 Con affezione innamorata. Con affezione. Allez, hey! Hein?
Ginette, là, à ce moment-là, elle faisait son show soir après soir à Salpierre-Mercure.
Je l'ai vu, okay? Show-là.
Bien, évidemment, qu'elle faisait Fais-moi la tendresse. Puis, c'était son choriste qui faisait. C'est ça. Mais moi, en même temps que ça, je chantais à l'Opéra de Montréal, un opéra qui s'appelait Il Tabarro. De Puccini. Quand arrivait l'entraque, je prenais un taxi.
Non.
Je m'emmenais à la salle Pierre. Je vous le jure comme on est là. Je m'emmenais à la salle Pierre Mercure. Dans mon costume, là, j'avais pas le temps de me changer. Il disait pas à Ginette. Puis là, il faisait juste le dire au choriste. Puis là, moi, je rentrais, je faisais mon petit bout, puis je repartais.
Non.
Je retournais à la place des arts. Ouais.
Ça s'invente pas.
Tu t'as jamais manqué de voix. C'est non. Fascinant.
Ben, c'est-à-dire que des fois, j'ai été malade, mais. C'est ça la différence. C'est que ce que vous voyez là, des jeunes à la voix, des jeunes à Star Academy, moi, j'adore tout ça, OK? Mais ce qui est important que ces jeunes-là sachent, c'est que la technique vocale, ça va sauver ta vie.
Oui.
Ça va faire que si là, ça marche vraiment bien, là, ben tu vas tout le temps être capable de
exact,
le faire.
Exact, c'est vrai.
Parce que à un moment donné, si ça marche bien, moi, là, j'étais sursollicité, là, je veux dire, dès le départ là, de ma carrière. Puis partout à travers le monde. Fait que là, tu prends un avion, t'arrives, puis faut que tu chantes là, comme si t'avais pas passé 8 heures à essayer de dormir sur un banc dans l'avion. Fait que c'est la technique vocale qui fait toute la différence de ça, ce que tu apprends dans une école. Puis ça s'apprend à longue échéance. Ça s'apprend même sur toute une vie. Donc, ça, c'est super important. Fait que ce qui fait que je me souviens d'un Faust, l'opéra Faust de Gounod, où j'appelle ma blonde, là, puis j'y parle de même parce que ça brûle. Ça brûle, ça n'a pas de sens. Mais quand j'arrive sur scène, ça sort de même. Parce que ça vient pas de la même place. Parce que c'est une technique vocale qui place la voix. Puis,
Il n'y a pas juste ça. C'est Céline qui a dit ça à un moment donné parce que son médecin, il a dit, si on regarde vos cordes vocales, on comprend pas, vous n'êtes pas supposé faire ce que vous faites avec ce que vous avez. Mais elle a dit, mais je chante pas avec mes cordes vocales.
Ben non.
Je chante avec mon cœur.
Les cordes vocales, là, ils vibrent puis ils font un son. Sauf que c'est pas supposé d'être les cordes vocales qui continuent de faire le son. C'est-à-dire que tout...
Ça
devient super ésotérique, là, mais ça s'en va dans tes résonateurs. Tu respires... Le principe, tout le temps, c'est de dire, si tu... Comme quand tu respires, t'es un chanteur. Non, mais ton verre, là, on veut le remplir, là,
ouais.
OK? On va le remplir par en haut, hein? Est-ce que le vin, il va arrêter en plein milieu ou il va s'en aller en bas? C'est le même principe quand tu respires. S'il y a des chanteurs, ils respirent, puis là, tu vois les épaules qui montent. Ça, c'est parce qu'ils arrêtent la respiration, là. Le chanteur, là, lui, quand il chante, là, en principe, là, c'est vraiment supposé. Ça s'en va là, puis ça, là, t'es comme un boxeur. Tout le diaphragme, le contrôle que tu as sur ton diaphragme fait que tu vas pouvoir garder cette respiration-là aussi longtemps que tu veux. Parce que tu vas juste utiliser ce qu'il y a d'air nécessaire au lieu de trop utiliser ou pas assez utiliser.
C'est un instinct.
Tu devrais le regarder comment il te regarde. Lui, il a fait Star Academy.
Je sais, je l'ai vu tantôt.
Il te regarde là avec tellement de la passion. Apprenez-vous tout ça à Star Academy.
Ben non.
Pas à ce niveau-là,
ça
hein?
Ça va trop vite.
Ça va trop vite.
C'est pas le but de ça va trop vite, puis c'est pas le but. Parce que ce dont je parle, c'est une formation qui dure des années et des années, là, tu sais. Puis.
Puis, tu sais, moi, je regarde, tu sais, moi, j'ai pas eu de. Moi, j'ai étudié en guitare, j'ai pas étudié en voix. Fait que moi, puis des fois, j'avais le complexe quand je chante avec des chanteurs qui ont des bacs en. Tu sais, ils ont des bacs en chant. Moi, j'ai un bac de recyclage. C'est ça, puis. Mais les filles me disent, France, t'as développé une technique parce qu'à force, à force de chanter 250 fois par année dans des conditions difficiles, j'ai appris à le faire.
Moi,
t'sais.
Tu viendrais me voir, là, parce que ça m'arrive. Il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens qui chantent depuis longtemps. Là, puis ils me disent, mais là, je pense que je devrais aller voir un prof. Et je dis, non, fais pas ça.
Ils vont casser ta méthode.
Parce que là, tu vas te fucker l'affaire là, parce que t'es rendu trop loin. Ton corps a appris à tout le temps compenser, à faire ce qu'il y a à faire. Quand tu commences jeune, puis que là, tu as une formation, même si tu as des fois des mauvais plis, on est capable de les replacer. Mais plus tu vieillis,
Moi, il a fallu que je m'adapte, chanter pas de boucan là, d'un bar, là. Prenais mon air, là, moi.
Mais ouais. Mais c'est ça, c'est une technique, ça fait des miracles, mais ça fait que tu es capable de chanter dans toutes sortes de...
C'est bien impressionnant.
De conditions. Puis très souvent, les meilleures soirées, c'est les soirées où tu es le plus malade, parce que tu chantes avec...
Ça, c'est vrai.
Tout, tu restes concentré sur ta technique vocale, sur ton appui, sur tout ça. Donc, tu es capable. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une maudite limite, là. Tu sais, si tu es malade, t'es pas juste vocalement, là, t'es affaibli, t'es affecté. Tu n'iras pas, t'as pas d'énergie.
Ouais, mais là, tu vas venir nous porter un bol.
Ben oui.
T'as-tu une question pour Marc? Vocalement, techniquement?
Ben, t'es très bon.
Ben oui,
très, très
ouais,
bon.
Ouais.
Super
bien. Ouais,
ben
j'ai pas de question. Ah,
mon âge, je prendrais pas un prof,
n'importe.
Regarde
les dents, viens,
viens.
Mettons,
tu
montes. Ben oui!
Non, mais
comment
toi,
on l'applaudit? Ouais. Il est tellement merveilleux.
Moi, ce que je te dirais, mettons, tu me poserais ces questions-là, je te dirais, va travailler avec un coach.
Un coach. Ouais.
Un coach qui,
comme toi.
Qui va être au piano.
Avec toi.
Non, mais un coach qui va être au piano, qui va te dire la vérité. Tu sais, le coach, il peut te poser une question, il dit, est-ce que tu veux la vérité ou tu veux que je te fasse plaisir?
Mm-hmm.
Hein? C'est ça. Alors, c'est toujours mieux d'avoir la vérité. Puis la vérité, ça se dit d'une bonne façon des fois, contrairement à sa mère. Tu vois?
Non, mais il y avait une question.
Ouais, vas-y.
Mais, non, mais j'ai pas de question. Tu sais, ce que tu parlais, mettons, niveau truc vocal. Tu sais, moi, j'ai pris des cours, mettons, à l'âge de 14 ans avec une prof qui m'a exactement dit ce que t'as dit, le diaphragme, le périnée, qu'il faut... Tu chantes de là, pas de là. Ouais. Puis quand j'étais plus jeune, je respirais comme ça. Ben oui. Puis j'ai dû apprendre à respirer comme un vrai chanteur à descendre. Puis je me couchais, j'étais jeune, puis je pensais à respirer vraiment comme de là.
Ouais.
Puis depuis, il n'y a plus une fois que je lève mes épaules. Puis c'est vrai que quand on est malade, on chante mieux.
Ben oui, ben c'est parce vrai. Qu'on est plus attentionné à comment on produit le son, tu sais, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Mm-hmm.
Chantes-tu encore beaucoup?
Je chante beaucoup, je fais de la musique, je produis en studio, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent bientôt.
Yeah!
Merci d'être là!
Ça fait plaisir.
Hey.
Si. Tu vas avoir un podcast bientôt, on va aller t'écouter, hein?
Ah ouais?
Yes!
Hey, ça termine notre podcast.
Mais voyons donc!
Arrête donc, toi! Il y a l'autre qui s'attache. J'en peux plus.
Je suis pas descendu de Québec juste pour une
heure. Qu'on continue. On continue.
Hey, mais allez le voir, son show.
Sinatra.
Ça va être extraordinaire.
Elle était complet quasiment partout. Je suis allé voir. C'est capotant.
On a 10 de fait. On en fait une trentaine. Mais c'est vrai que écoute, la plupart des places...
J'ai une dernière question. La millième dernière.
Pas trop.
Trouves-tu que l'opéra au Québec, c'est populaire assez à ton goût? Moi, dans mon entourage, là, j'ai un très grand entourage. Il n'y a personne qui va voir l'opéra.
Non, c'est correct.
Mais c'est triste parce que c'est très bon.
Ouais.
Pourquoi? Y a-tu une mauvaise presse? Ça a-tu mal parti? Pourquoi?
Pourtant, moi, quand je vais voir des shows symphoniques, mettons, à Montréal, c'est toujours plein.
C'est plein.
Ouais. Mais tu sais.
Mais on dirait que je connais personne qui va voir
en
ça.
En fait, ici, tu sais. Il y a pas, on est un peuple jeune, hein?
C'est vrai.
Donc faut jamais oublier que la tradition, il y a des maisons d'opéra qui existent en Europe qui ont commencé à exister avant qu'on soit découvert. Fait que tu comprends que, tu sais, à La Scala, c'est la je sais pas combientième saison, là, là, ça se compte par centaines. Fait que, tu sais, c'est ça qui est la différence, beaucoup.
Ben, mais tu vas faire la différence, justement.
Exactement.
Mais ce qu'il faut surtout savoir, parce que moi, maintenant, tu sais, j'ai plus le temps d'en faire, parce que ça prend au moins 5 semaines de faire un opéra. Tu sais, répétition, représentation, ça prend à peu près 5 semaines. Moi, je peux pas partir 5 semaines à cause de la direction des conservatoires, à cause de la radio, à cause... Bon, fait que, à l'opposé de ça, je fais beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts. Mais ce qu'il faut surtout savoir que les gens savent pas, c'est que présentement, à travers le monde, là, des méga-stars de l'opéra québécois ou québécoise, il y en a des tonnes.
Imagine.
Puis on les, parce qu'on en forme, hein, les conservatoires, oui. Les universités, on en forme. Puis il y a quelque chose dans la façon de chanter des francophones québécois qui est pas du tout la même façon de chanter des francophones français, par exemple. Donc, on a une plus grande solidité souvent chez les Québécois. Donc, présentement, Étienne Dupuis, là, c'est un gars qui chante sur toutes les plus grandes scènes du monde. Il y a un gars qui s'appelle Jean-François Lapointe, c'est un gars du Lac ou du Saguenay. Là, je voudrais pas faire d'impair, je sais pas s'il vient de un ou de l'autre, mais lui, là, ça fait 40 ans qu'il chante les premiers rôles sur les plus grandes scènes du monde entier, de La Scala à n'importe où vous voulez.
Comment il s'appelle?
Jean-François Lapointe.
Ah.
Écoute, il y a personne qui le connaît ici.
Non.
Mais c'est quelqu'un qui a une carrière phénoménale.
Imagine.
Tu comprends? À l'époque, on a eu des grands chanteurs québécois là, qui ont fait des affaires incroyables. Joseph Rouleau, à l'époque, là, on parle des années 40, 50, 60. Lui, il est aller chanter des rôles en russe, un opéra qui s'appelle Boris Godounov, en Russie. Il était Québécois, il chantait en russe chez les Russes. Tu sais, c'était des exploits, là. Tu sais, c'est comme les sportifs qui font la Coupe du monde. C'est gagner la Coupe du monde.
Oh, ouais.
Présentement, Marie-Nicole Lemieux, présentement, il y en a des tonnes là, qui font une carrière phénoménale à travers le monde.
C'est quoi la moyenne d'âge du public de l'opéra à Montréal?
Ça rajeunit tranquillement, c'est sûr que...
Bonne nouvelle.
C'est sûr que ce qui amène ça, c'est qu'avant, tu sais, les chanteurs, ils rentraient sur scène, ils se plantaient là, ils chantaient, puis ils ressortaient, that's it. Fait que l'image de la chanteuse avec le casque puis les cornes, on l'avait, là, tu sais. Mais maintenant, depuis des années, les opéras sont montés par des metteurs en scène de théâtre. Mmh. Fait que, tu sais, avec des conceptions incroyables, puis tout ça. Fait que ça fait ça que les gens veulent y aller. Tu sais, nous autres, quand on faisait Starmania, c'était quand même une révolution parce que ça avait été adapté façon classique et opéra. Donc, c'était plus pantoute la même affaire. Nadzilène, là, c'était une espèce de marche militaire incroyable. Là. Je veux dire, ça marchait. Le public venait fou, mais là, justement, on amenait des plus jeunes à l'opéra.
Ben, puis les artistes sont... Moi, j'ai vu un chanteur d'opéra. Oui. J'ai découvert un chanteur d'opéra à Montréal, mais c'était un jeune. Là.
Ben oui, bien
c'était
sûr,
pas un gars vieux. Là, puis c'est impressionnant.
Des jeunes. C'est plein de jeunes présentement. Donc,
tu nous donnes le goût d'aller voir de l'opéra, n'est-ce pas?
Mais
puis aller voir Sinatra, puis aller voir Marc Hervieux en show.
L'important, c'est de commencer aussi par les bonnes affaires. Parce qu'il y a des opéras, ouais. Vous allez aller voir. Puis là, vous avez commencé par ça, puis vous vous dites, « Asti, plus jamais je vais me faire prendre. » Ça n'a pas de sens. C'était d'une platitude. Parce que ça s'apprend. Comme,
ouais. Mais il n'y a pas juste ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des chanteurs d'opéra qui ont du feeling, puis il y a des chanteurs d'opéra qui n'ont pas de feeling. Que c'est juste des chanteurs techniques. Ça vibre de partout. Ça se met, tu ressens rien. Et il y en a qui chantent, puis tu fais, « Mon Dieu, je suis bouleversé. »
Mais moi, j'aime mieux une voix moins parfaite. Puis
avec d'émotion.
Qu'une voix parfaite. Une voix parfaite, c'est sûr que je l'écoute puis je fais comme, ah, oh, ben, mon torieux, toi,
ouais,
tu sais, parce que j'ai une technique.
T'as-tu torieux ou tabarnak?
Aïe, aïe. Oui, oui, je le dis.
Tu dis-tu tabarnak des fois?
Oui, oui, genre.
Un beau tabarnak bien placé.
Moi, j'ai appris dernièrement que les Espagnols, ils ont les mêmes sacs que nous autres. Hostia. Eux autres, tu sais, nous autres, on dit hostie, là. Hostie, tabarnak. Eux autres, c'est hostia. Hostia, là, autant que nous autres, hostie.
Moi, je me
c'est
rappelle...
C'est pas beau, ça?
Ma première job internationale, c'était en Espagne.
Oh!
À l'opéra de Malaga.
Hostia.
Puis, c'est l'opéra Manon, donc en français.
Viens dans ces
okay? Hein? Puis, il est arrivé plein d'affaires dans ça, mais le chœur, les choristes, c'est tous des Espagnols de la place. Puis eux autres, ils se disent... Bien, le français, ça doit être comme l'espagnol, il faut tout prononcer. Mmh. Fait que Il faut pas oublier que les Espagnols changent les B pour les V puis ouais. les V pour des B. Fait que au quatrième acte là, ça se passe dans un parc à Paris. Puis là il y a des immenses robes puis tout ça. Puis là Manon arrive. Puis le chœur doit chanter ravissante, divine, divine. Et à chaque soir je l'attends tellement.
Ravissante,
divine, divine. Et dans l'opéra Carmen, que je fais aussi là-bas, le ténor, à la fin, il chante, parce que c'est un contrebandier, il dit « Carmen, je resterai bandit tout ce que tu voudras, mais chaque maudit soir, le gars, et moi, je l'attends. Carmen, je resterai bandit tout ce que tu voudras. » Écoute, je l'attends à chaque soir, parce que je me dis, lui, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Alors, ça c'est
drôle. Je resterai bandé. On vous quitte là-dessus, mesdames et messieurs.
C'est ça. Merci à la
caméra. Merci beaucoup. Merci au public. Merci beaucoup. Ça nous aiderait si vous alliez vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur Spotify. Vous faites les sacoches à la poudre et allez vous abonner. Marc, ce fut un plaisir. Il est parti de Québec pour venir ici et il retourne à Québec. Il est ici pour nous ce soir. On va aller te voir. Sur Marc Hervieux, sa page, je suis allée voir toutes les... Hey, mais t'en as des shows, là. Je sais pas où tu trouves le temps. À la tête ferme, écoute, il y a des shows, on va aller voir Sinatra, on va aller voir... Et tu chantes une chanson, une de mes plus belles chansons de ma vie, que tu chantes, si je t'attendais.
Oui.
Tu as chanté ça en tout cas.
Parce que pendant la pandémie, j'avais le goût de chanter des chansons que mes parents étaient sur stéréo.
Tu savais comment j'ai frenché, moi, là-dessus? Oui. Non, mais c'est...
Mon cœur était plus glacé que l'hiver. Ben oui, oui, c'est ça. Jour après jour, le ciel était triste et gris. Allez, viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille dans le cœur des amants. Allez, viens!
Merci beaucoup, tout le monde! Merci, merci, merci beaucoup!